Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct mercredi 26 novembre 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 27 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Chers auditeurs, bonsoir. Nous ne sommes pour le moment que deux dans le studio avec Dominique Vénère. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Bernard.
Nos autres invités sont retardés par les embouteillages et Victoria est bloquée vers la porte de Pantin. Alors nous allons l'attendre, mais nous allons tous les deux avec Dominique commencer notre émission. Cette émission qui va être consacrée à trois sujets. Un premier sujet africain, et je pense que les auditeurs vont avoir deux ou trois nouvelles qui vont les amuser. Un deuxième sujet qui va être consacré au terrorisme à propos de la Nouvelle Revue d'Histoire, le dossier central du numéro 9 de la Nouvelle Revue d'Histoire. Et la troisième partie de l'émission qui sera la partie principale, qui aura comme invité le général Bach, qui va nous parler de son livre « Fusillé pour l'exemple, 1914-1915 », avec la question de l'historiographie de ce problème des mutineries et de la justice militaire pendant le premier conflit mondial. Première partie donc consacrée à l'Afrique, et Dominique Vénère, je vous passe la parole.
Bernard Lugan, lors de la dernière émission de Radio Courtoisie, vous aviez promis aux auditeurs une surprise pour ce soir.
Oui.
Alors, d'où arrivez-vous d'abord?
Eh bien, Dominique, j'arrive d'un endroit magique qui est le pied du Kilimandjaro.
Et qu'avez-vous fait au pied du Kilimandjaro?
Eh bien, je n'ai pas gravi le Kilimandjaro car je n'y étais pas allé comme touriste, mais j'y suis allé pour travailler.
Ah bon? Alors, bon, chacun sait que vous êtes un spécialiste de l'Afrique, que vous allez souvent en Afrique, mais était-ce pour une mission particulière?
Ah, c'était une mission très particulière, Dominique.
Mais encore.
Eh bien, chers auditeurs, j'étais au pied du Kilimandjaro, ou plus exactement au pied du mont Meru, parce que j'étais convié par l'Organisation des Nations Unies auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, car j'avais été nommé expert, je suis nommé expert auprès de cet organisme international, pour pouvoir intervenir et pour pouvoir donner le contexte historique et les explications nécessaires aux juges éminents et internationaux qui siègent à ce tribunal concernant l'histoire du Rwanda, le contexte du génocide et les responsabilités des uns et des autres.
Si je comprends bien, Bernard Lugan, il arrive parfois que vous soyez contesté en France par des médias, etc., mais vous êtes reconnu internationalement comme spécialiste de l'Afrique, comme spécialiste de l'histoire africaine, puisque c'est à ce titre que l'on vous a demandé de témoigner.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, il n'y a qu'en France où j'ai des problèmes. La France est une Albanie intellectuelle. Il faut bien voir que les marxistes et les post-marxistes tiennent complètement le monde intellectuel français et les universités. Alors c'est pour cela que l'on me reproche souvent de citer des mots en anglais, etc. Moi, je suis un combattant. Quand je ne peux pas passer par la porte principale, je passe par la tour ou je passe par les fossés. Et ma contre-offensive se fait par le monde anglo-saxon, parce que dans le monde anglo-saxon, nous avons affaire à des gens qui sont des réalistes, et des gens qui analysent la réalité et qui ne font pas passer la réalité au moule de leur idéologie. Alors il se trouve qu'au Tribunal pénal international, dont nous allons parler tout à l'heure, depuis des années, des experts autoproclamés viennent donner leur expertise, et toutes les expertises tournent toujours autour du même problème et autour de la même idéologie dominante lorsqu'on a affaire à des experts qui viennent de France. Et le Tribunal pénal international a pensé que, en ayant découvert mes travaux, que je pouvais donner peut-être un éclairage un peu différent, et il est certain que ce que j'ai donné comme expertise est une expertise qui a un peu étonné et décoiffé, et je crois que ça a été perçu d'une manière très très favorable. D'ailleurs, les échos que j'ai pu en avoir sur place ont été tout à fait importants.
Alors, pour que les choses soient bien claires pour nos éditeurs, pouvez-vous d'abord resituer le cadre du Tribunal pénal international? Qu'est-il? Quelle est sa justification? Quel est son rôle? Voilà, le cadre initial.
Alors, Dominique Vénère, vous n'êtes pas sans savoir qu'en avril 1994 a eu lieu un génocide au Rwanda. Nous en avons longuement parlé ici, sur les antennes de Radio Courtoisie, et les auditeurs qui sont abonnés à l'Afrique réelle ont reçu tous ces dossiers, ces numéros. J'en parle énormément, car je pense être en France celui qui connaît le mieux le Rwanda. Je suis le seul à avoir fait mes deux thèses sur le Rwanda. J'ai 11 ans en poste au Rwanda, j'ai publié une quarantaine d'articles scientifiques dans les revues anglo-saxonnes, je connais intimement cette question du Rwanda. Il se trouve que j'ai donc été appelé pour donner cette expertise au Tribunal pénal international. Alors ce Tribunal pénal est créé très tôt, parce que le génocide commence au Rwanda dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, et ce génocide va durer jusqu'au mois de juillet. Et pendant ces 100 jours dramatiques, entre 800 000 et 1 200 000 morts seront à déplorer, essentiellement des Tutsis, qui vont être tués par ceux que l'on appelle les extrémistes Hutus, et que je préfère appeler les nationalistes Hutus, car c'est un point qui est totalement différent. Et ce génocide est un épouvantable génocide, bien entendu, et dès le mois de novembre 1994, l'Organisation des Nations Unies, dont l'incapacité à empêcher le génocide a été proverbiale, parce que l'Organisation des Nations Unies, qui avait organisé une mission de casque bleu d'interposition sur place, a été absolument incapable de mener cette mission à bien. Pourquoi ? Parce que les pays qui auraient pu avoir des contingents efficaces n'en ont pas envoyé de contingents. La France, qui avait la possibilité de mettre des troupes, n'a pas pu parce que les Tutsis du FPR ont récusé la présence française, car les Français avaient soutenu le gouvernement Hutu. Ce qui fait que l'ONU était déjà privée des meilleures troupes opérationnelles qui étaient des troupes françaises. Les Britanniques n'ont pas voulu se hasarder dans cette affaire parce que ils étaient plutôt sympathisants du côté FPR et ils auraient été de toute façon récusés par le gouvernement Hutu. Les Américains n'ont pas pu envoyer de troupes parce qu'ils étaient en sortie de la crise de Somalie et ils étaient tout à fait réticents quant à l'idée d'intervenir en Afrique. Parmi les puissances ayant des disponibilités et des troupes opérationnelles en Afrique, il ne restait plus que les Belges. Et les Belges ont envoyé 600 hommes. Et ce contingent belge était trop peu nombreux pour constituer une force opérationnelle, parce que ce contingent international était composé de soldats du Bangladesh, dont la couardise et la nullité étaient devenues légendaires. Lorsque l'on lit les mémoires, les souvenirs du général canadien Dallaire qui commandait le contingent, l'on se demande où avaient été recrutés les Bengalis qui ont refusé de monter en ligne, qui ont refusé de s'interposer, qui ont livré les otages aux égorgeurs. Il y avait quelques Tunisiens qui ont été remarquables, très très bons soldats, remarquables, les Ghanéens qui n'étaient pas mauvais, mais qui étaient peu nombreux. Ce qui fait que dans tous les cas, l'ONU n'avait pas les troupes suffisantes. Et chaque fois que le général Dallaire a demandé des troupes, eh bien l'ONU était incapable de lui envoyer des contingents. Ce qui fait que dès que le génocide a commencé, les extrémistes hutus se sont dit « il faut que les Belges s'en aillent ». Car le seul élément dur dans cette force de l'ONU, c'était les Belges. Donc ils ont assassiné 10 soldats belges qui étaient désarmés, ils les ont assassinés dans des conditions épouvantables, ce qui fait que la réaction émotionnelle en Belgique a été telle que les Belges ont rapatrié leur contingent de casques bleus. Or, ces casques bleus étaient les seules troupes opérationnelles, c'était des paracommandos, c'était d'excellentes troupes. À partir de ce moment-là, l'ONU n'avait plus aucun moyen de s'interposer et le génocide s'est déroulé. Donc, dès 1994, l'ONU, dès le mois de novembre 1994, donc 3 mois après la fin du génocide, la résolution 955 de l'ONU, prise au Conseil de sécurité, crée le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Et ce tribunal pénal international, qui est donc le second après celui pour la Yougoslavie, alors celui pour la Yougoslavie se tient en Hollande, et celui pour le Rwanda se tient à Arusha. Alors pourquoi à Arusha, en Tanzanie? Eh bien parce que c'est à Arusha qu'avaient été signés les accords censés pacifier le Rwanda, les fameux accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, sous supervision de l'ONU et de la communauté internationale, qui, au lieu de pacifier le Rwanda, ont directement débouché sur le génocide. Car ces accords internationaux, un peu comme style accord de Marcoussi et c'est en Côte d'Ivoire, ces genres d'accords qui sont pensés de l'extérieur par la communauté internationale, ne satisfont absolument pas les hommes politiques locaux et ne pacifient rien sur place. Ce sont des accords qui jettent de l'huile sur le feu, ou qui, du moins, quand ils ne jettent pas de l'huile sur le feu, sont des couvercles sur la marmite, et la marmite finit par exploser. Alors ce tribunal s'est créé à Arusha pour que soit continué le principe d'une justice internationale qui venait, si vous le voulez, corriger les erreurs qui découlaient des accords d'Arusha. Ceci fait que l'ONU s'est installée à Arusha. Et la ville d'Arusha, qui est une ville que je connaissais bien, il y a fait longtemps que je n'étais pas allé à Arusha. Mon dernier passage à Arusha devait remonter à une quinzaine d'années. Cette ville d'Arusha a totalement changé, parce que l'ONU est véritablement le cœur de cette région. Toute l'économie tourne autour de l'ONU. Pensez donc que dans cette ville d'Arusha séjournent 800 membres de l'ONU. 800 agents de l'ONU. Alors, dans toutes les disciplines, dans toutes les spécialités, les juges, les procureurs, les greffiers, les traducteurs, les bibliothécaires, les mécaniciens, les gardes, les chauffeurs, les cuisiniers, une ville, une véritable ville, un vol à puque.
Avec des moyens considérables.
Des moyens considérables. Le budget par an est de 100 millions de dollars. Et il est sans arrêt corrigé. C'est extraordinaire. Vous avez une impression, lorsque vous arrivez à Arusha, alors les véhicules, tout le monde, bien sûr, a le passeport diplomatique. Et alors, cette ville d'Arusha s'est développée comme un champignon. Parce qu'il faut loger tous ces gens. Les hôtels sont pleins. Des hôtels se sont créés. Des restaurants. Des maisons ont été construites. Car une grande partie de ce personnel reste pour des années. Et il faut bien sûr que les gens s'installent. Des écoles. Car il y a des expatriés. 800 agents avec les femmes et les enfants, cela fait une population expatriée de 2000 personnes, au moins. Sans compter les effets induits, sans compter les travailleurs locaux qui sont embauchés. Donc la ville d'Arusha vit du tribunal pénal international. Et cette ville en vit tellement qu'une ligne d'aviation est quasiment existante pour le tribunal pénal international. Alors en pleine brousse, a été créé un aéroport qui existait déjà avant l'ONU, mais qui maintenant fonctionne quasiment que pour l'ONU. C'est l'aéroport de Kilimandjaro, et qui est excessivement pratique parce que la KLM, la compagnie néerlandaise KLM, a une liaison directe par jour Hollande, Amsterdam, Kilimandjaro. Ce qui fait qu'en 12 heures, vous quittez l'Europe, vous êtes sur place à Kilimandjaro, les véhicules de l'ONU vous prennent, une heure de route vous emmène à Arusha, et puis vous êtes sur place au tribunal. Alors le lendemain matin, vous arrivez, on vous fait les badges de circulation, vous faites les formalités, etc. Et vous êtes opérationnel. Vous pouvez vivre dans le tribunal quasiment sans sortir du tribunal pendant le temps de votre séjour, uniquement le soir pour aller dormir. Alors, je suis arrivé à Kilimandjaro, et là, je dois dire que je me suis bien amusé dès l'arrivée parce que je suis sorti avec mon bagage en chantant en swahili le Haya Safari, la petite piste. Et c'était assez, le succès était assez grand parce que évidemment j'ai passé la douane sans problème. Quand vous chantez le Haya Safari en swahili, qui est la langue nationale, ben, pas de problème. Et alors, ça m'a donné l'occasion, en chantant ce chant, de tomber sur d'anciens officiers et sous-officiers français qui était de la coloniale, qui connaissait ça, qui mais vous chantez la petite piste. Oui, je chante la petite piste. Alors donc nous avons trouvé un certain nombre de découvertes d'atomes crochus, donc je me suis fait des bons camarades sur place. Donc le séjour a été tout à fait intéressant, et en plus de l'aspect purement justice internationale, les contacts humains ont été tout à fait intéressants. Alors ce tribunal pénal international est c'est un diplodocus. C'est un diplodocus, c'est un vol à puque, et c'est en même temps, pour moi, un objet d'étude ethnologique magnifique. Là, j'ai passé un séjour d'ethnologue dans ce tribunal.
Pourquoi ? Parce que de très nombreuses nationalités sont représentées, entre autres.
Toutes les nationalités.
Oui.
Toutes les nationalités. Par exemple, la bibliothécaire est bulgare. Tout à fait charmante, très efficace. Le personnel est très bien payé, et c'est un personnel qui travaille. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont en tourisme. Attention, c'est un système anglo-saxon qui n'y a pas de sentiment. On bosse. On bosse tôt le matin, et il y a vraiment... Alors, évidemment, c'est international. Donc, en ce moment, en période du Ramadan, donc tout s'arrête à 5 heures pour la rupture du jeûne. Les audiences s'arrêtent parce qu'il y a des juges, il y a des greffiers qui sont musulmans. Toutes les fêtes des diverses religions sont célébrées. Donc, il y a pas mal de temps de vacances. Mais les journées de travail sont bien remplies. Oui, toutes les nationalités. Alors, on parle essentiellement anglais. Et je dois dire que le français est bien représenté. Le français est bien représenté par les Africains francophones, les Togolais, les Camerounais, etc. Il y a trois langues officielles pour les procès. L'anglais, le français et le Kinyarwanda, bien sûr, puisque le tribunal juge de crimes qui se sont déroulés au Rwanda, la langue nationale du Rwanda est le Kinyarwanda. Ce qui fait que les cabines de traduction traduisent simultanément en trois langues. Ça multiplie les procédures, et cela surtout oblige à ne pas avoir un dialogue trop rapide, parce qu'il faut que le traducteur ait eu le temps de les traducteurs aient eu le temps de traduire, que cela vous revienne et que vous puissiez reprendre la discussion. Donc cela évite les joutes trop directes, et cela donne un côté un peu haché au débat, mais c'est tout à fait important.
Et quelle est la procédure utilisée par le tribunal pénal international ? Ressemble-t-elle à ce que nous connaissons dans les tribunaux français ?
Eh bien, la procédure est anglo-saxonne. Pas du tout la procédure française. Alors, lorsqu'on est habitué à ce que nous connaissons, nous, dans notre procédure française, l'on est un peu dérouté. Pour nous résumer, le système français est un système qui tourne autour du juge d'instruction. Le juge d'instruction instruit, et il instruit à charge et à décharge. Et quand il a fini d'instruire à charge et à décharge, il envoie son dossier au parquet, et le parquet lui donne des instructions, et en fait, lorsque le dossier est renvoyé devant une cour, il est ficelé. L'enquête est faite, même si l'on refait une partie de l'enquête au tribunal, tout le gros est fait. Le système est totalement différent dans ce système de la justice internationale parce que nous sommes dans une procédure accusatoire et une procédure anglo-saxonne. Il y a, si vous le voulez, ce qui pour nous est déroutant, mais qui correspond à une mentalité qui n'est pas la nôtre, mais qui est la mentalité et l'habitude judiciaire de ces pays anglo-saxons, car c'est le droit anglo-saxon qui prévaut. Vous avez l'accusation et la défense. La défense doit avoir les mêmes armes que l'accusation. Et l'accusation est là pour accuser. À la différence du procureur français qui instruit à charge ou à décharge, et à décharge, le procureur n'instruit qu'à charge. Il est payé au rendement. Pour lui, tout le monde est coupable, et il faut que la sanction tombe. Que l'avocat et que la défense fassent la preuve que l'accusé n'est pas coupable. Et pour faire la preuve que l'accusé n'est pas coupable, la défense a tous les moyens. Et c'est là où nous entrons dans l'aspect totalement surréaliste.
Y compris, bien sûr, faire appel à des experts.
Et faire appel à des témoins. Et cela devient totalement surréaliste parce que, dans le cas du Rwanda, par exemple, vous avez des condamnés qui sont en prison au Rwanda, qui sont de simples paysans des collines, des gens qui n'ont jamais vu un avion, qui n'ont jamais vu l'électricité. Bien, ces gens, s'ils sont témoins, vont être cherchés par un avion de l'ONU à Kigali, Rwanda. On les sort de la prison, quand ils sont en prison, ou bien on va les chercher sur la colline, on les escorte, on les installe dans un avion, on les emmène jusqu'à Arusha, on leur donne une voiture, un chauffeur et des gardes, on les installe dans une villa résidentielle, dans un luxe qui pour eux est impensable, on les sort complètement, on les sort totalement de leur monde traditionnel, et on les amène dans cette salle de tribunal où ils doivent témoigner en disant oui, j'ai vu monsieur un tel, je connais monsieur un tel a fait ceci, monsieur un tel n'a pas fait cela. Donc ça coûte une fortune parce que ces témoins peuvent être interrogés s'ils sont au Canada, s'ils sont dans n'importe quelle partie de l'un ou l'autre des continents. Donc c'est un système qui est très lourd, mais la défense a le droit d'utiliser cela. Il n'y a pas de limitation au crédit de la défense. Alors c'est un système qui est énervant pour nous Français parce que l'on voit bien que le procureur ne s'intéresse pas tellement à la vérité. Il est là pour mettre en difficulté la défense. Et il est là pour expliquer, pour imposer son acte d'accusation. Il est là pour justifier son acte d'accusation. Alors tout le principe est d'affaiblir le procureur. Mais tout le principe est également, pour le procureur, d'affaiblir la défense. Et d'affaiblir la défense en décrédibilisant les témoins et les experts. Alors là, nous en parlerons tout à l'heure, c'est là où on arrive à des grands amusements dont nous parlerons tout à l'heure, parce que effectivement, l'on passe à des situations qui sont tout à fait intéressantes.
C'est donc la défense qui vous avait fait nommer comme expert.
Tout à fait. Alors il y a expert de l'accusation, expert de la défense. Alors ce qui est tout à fait paradoxal, c'est moi qui ai plutôt une réputation qui est inexacte. L'on dit que je suis plutôt pro-Tutsi. Ce n'est pas cela. Moi, je suis un historien et je constate que ce sont les Tutsis qui ont fait le Rwanda. Et vous savez que ma grande théorie en histoire africaine, c'est qu'il y a des peuples moteurs et des peuples qui sont moins moteurs que les autres. Et j'explique depuis 20 ans ou 30 ans que le drame de la colonisation, c'est qu'elle a cassé les peuples moteurs au profit des peuples dominés. Elle a libéré les esclaves et elle a brider les maîtres. C'est ça le reproche que je fais à la colonisation. Vous voyez, c'est le contraire de ce que disent les tiers-mondistes. Ce qui fait que, au Rwanda, nous sommes en présence d'un vieil État, et où les Hutus ont bien montré, de 1962 jusqu'à 1994, qu'ils n'étaient pas capables, en l'État, de dépasser le stade du régionalisme, et c'est pour cela qu'il y a eu tous ces événements, puisque la seule solution, et je le dis depuis 1970, la seule solution pour que le Rwanda redémarre, et que les anciens dominants reviennent au pouvoir, c'est-à-dire les Tutsis, sous une forme ou sous une autre. Ils le sont maintenant au pouvoir. Et donc, ayant cette réputation d'être pro-Tutsi, me voilà expert pour la défense des ministres Hutus. Ce qui est quand même un paradoxe. Tout simplement parce que la défense a considéré que ma connaissance du Rwanda était le seul moyen dans le cas de tel ou tel ministre ou tout accusé, de faire éclater la vérité. Parce que je suis intervenu pour la première fois, en l'occurrence, pour un ministre ou tout. Alors, je ne peux pas me permettre ici, je suis quand même tenu à une certaine réserve, entendons-nous bien. Hein, je ne peux pas, après ce qui s'est passé, comme je vais y retourner, je ne peux pas tout dévoiler. Vous comprenez bien que un devoir de réserve, je suis tenu par un devoir de réserve. Je ne citerai donc pas le nom du ministre pour lequel je suis intervenu. C'est un ministre qui avait un ministère technique et qui était membre d'un des partis de la coalition Hutu, qui était un parti non génocidaire, à l'idéologie non génocidaire, et je crois avoir démontré dans mon expertise que ce parti-là s'était créé précisément en opposition aux idéologies qui allaient déboucher sur le génocide, et ce parti-là a été un parti pris en otage lors du coup d'État des Hutus extrémistes après la mort du général Habyarimana, donc le gouvernement qui a été créé le 8 avril, et ce parti a été pris en otage, et le ministre en question était pris en otage et servait de caution aux extrémistes hutus, et il en allait de sa vie, et je crois avoir démontré qu'il était, ce ministre, engagé dans une stratégie de survie, et il ne peut pas faire autrement. Dans tous les cas, il n'a tué personne, et il était tout à fait sur l'arrière-main dans ce contexte ministériel. Donc voilà pourquoi j'y suis allé. Donc pour expliquer, pour faire une expertise d'histoire du Rwanda, et une expertise concernant l'histoire contemporaine du Rwanda, qui était qui, quels étaient les partis politiques, qui les avait créés. Et si vous voulez, j'ai pu donner la mesure de ma grande connaissance du Rwanda, chose que je n'avais jamais pu faire auparavant, parce que nous sommes entrés dans un débat tellement spécialisé qu'il fallait vraiment le tribunal pénal international pour aborder à ce niveau de spécialisation les questions rwandaises.
Alors comment s'est déroulé justement cette expertise?
Alors, cette expertise s'est déroulée de la manière suivante. Elle s'est déroulée sur deux grandes journées. C'est assez fatigant. Alors, vous avez donc une salle ultra moderne. Et cette salle est protégée par des vitres blindées, bien sûr. Et derrière, parallèlement à la salle, une grande salle de presse et une salle de public avec les présents, donc les journalistes, les avocats des autres procès qui viennent assister.
Beaucoup d'avocats?
Ah oui, beaucoup d'avocats. Des avocats internationaux, énormément d'avocats de tous les pays. Des gens fort intéressants. Pas mal de Canadiens, pas mal de Français, des Belges. Non, des gens de haute pointure. Des gens de grande pointure. Des gens très intéressants. Et donc les écouteurs pour les traductions simultanées. Donc vous mettez sur un canal en fonction de la langue que vous sélectionnez. Et dans mon cas, donc l'expert est assis, a le public dans le dos, séparé par une grande baie blindée. À la droite de l'expert, l'accusation, procureur adjoint. Derrière le procureur, les cabines de traduction. En face de l'expert, le président, qui était en l'occurrence un Norvégien, homme de grand talent, de grande culture, de grande connaissance, et homme, je dis de qualité exceptionnelle. Deux vice-présidents, une ougandaise et une pakistanaise, que l'on a peu entendu, et à la gauche de l'expert, la défense, en l'occurrence quatre avocats, deux Français, un Belge et un Rwandais. Derrière l'accusé, avec les gardes qui sont là, l'accusé arrive menotté, on le démenote dès qu'il est dans la salle, et l'accusé est installé. Et juste devant l'expert, quatre greffiers. Et responsable des greffiers, qui était dans cette cour, une malgache, tout à fait remarquable, femme également de grande allure, de grande tenue et de grande connaissance juridique. J'ai été frappé. Tout à fait frappé par le niveau intellectuel des gens que j'ai rencontrés. Ce n'est pas du tout la caricature que l'on peut avoir de l'ONU. Bon, le machin, certes, c'est le machin. Mais c'est le machin dans l'institution, peut-être. Mais dans la qualité des hommes que j'ai rencontrés, j'ai vraiment vu des gens que l'on voit pas souvent dans l'administration française. Hein, je le dis franchement. Et à tous les niveaux. J'ai vu des Ivoiriens extraordinaires, j'ai vu des Togolais admirables, j'ai vu des Russes hyper compétents, des gens de toutes les nationalités. Vraiment, ça m'a fait une grosse impression de compétence. Des gens qui vraiment connaissent leur affaire. Et puis, quand vous allez en une bibliothèque qui est parfaitement bien installée, quand vous allez en bibliothèque, vous voyez que les gens travaillent en bibliothèque. Oui, ils vont pas jouer au tennis, ils vont pas à la piscine, ils vont à la piscine le week-end. Ils sont en bibliothèque, ils travaillent leurs dossiers, ils commandent des livres, ils sont sur Internet, etc. Non, un côté travail qui est impressionnant.
Oui, c'est une sélection à l'anglo-saxonne,
oui.
Avec des perspectives de carrière certainement importantes, qui expliquent la qualité de ces participants.
Tout à fait, parce que les gens sont très bien payés à l'anglo-saxonne. On paye les compétences, donc on peut exiger... Ils n'ont pas le boulet du fonctionnariat français, où l'on progresse à l'ancienneté. Que vous soyez une moule ou un phénix, vous grimpez de la même manière. Bon, alors c'est ce qui tue la France. Vous voyez, nos universités meurent, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée, et parce que les professeurs ne sont pas notés. Moi, je suis pour la notation des professeurs. Si les professeurs étaient notés, moi, dans mon université, il y aurait facilement 50% des profs qui partiraient faire un autre métier. Bon, c'est certain. Et il faut... La seule solution, c'est ce système anglo-saxon. On va encore me dire je suis pro-anglo-saxon. Non, le problème n'est pas là. Moi, je suis pour la compétence. Et ce système fait ses preuves. Alors donc, ce système est tout à fait extraordinaire, parce que l'ONU, qui est un machin, qui est un volapuc, qui est, si vous le voulez, un système ectoplasmique, réussit à générer dans ses antennes de spécialisation des corps tout à fait remarquables qui travaillent. Et là, je le dis avec d'autant plus d'honnêteté que j'ai été étonné. Je ne m'attendais pas du tout à trouver cela. Je ne m'attendais pas du tout à trouver une telle compétence dans... sauf cas exceptionnel, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, dans ce système du tribunal pénal international. Ce sont des juristes de très haut niveau, qui font carrière, qui ont des plans de carrière, et qui remplissent leur mission, c'est très clair.
Alors, sans rentrer non seulement dans tous les détails, mais sans infraction à la confidentialité que vous évoquiez tout à l'heure, est-il possible néanmoins que vous nous disiez comment les choses se sont passées ?
Oui, alors ce tribunal est un tribunal qui gère 65 accusés à peu près. Donc il y a 65 accusés qui sont les cadres du Rwanda Hutu de 1994, qui sont les principaux responsables militaires, qui sont les principaux responsables du génocide au niveau local et qui sont tous les ministres du gouvernement transitoire de 1994, les ministres de ces 100 jours. Alors pour le moment, 15 verdicts ont été rendus à peu près. Sur ces 15 verdicts, il n'y a eu qu'un seul acquitté. Et tous les autres ont été condamnés, dont 5 condamnés à la prison à vie. Et la prison à vie est purgée au Mali. Sauf pour le cas du seul blanc qui a été condamné, qui était un Belge, qui était journaliste sur la radio extrémiste, radio-télévision des Mille Collines, qui lui a obtenu de faire sa peine en Belgique. Autrement, les autres condamnés vont au Mali. À partir du moment où ils sont condamnés, ils vont au Mali. Ils peuvent faire appel. L'appel se fait à l'AE, au tribunal pénal international de Yougoslavie, qui est en même temps la cour d'appel. Mais en appel, on ne reprend pas la procédure. Ce sont que les juges qui jugent uniquement sur l'aspect technique. Généralement, l'appel est confirmatif. Alors, comment s'est passé le procès pour lequel j'ai été appelé? De la manière suivante, je suis donc arrivé dans cette salle et je me suis installé. Le président m'a demandé de vérifier mon identité, qu'il avait, mais il a vérifié. Il a vérifié mes titres. Il m'a demandé de jurer, bien entendu, de dire la vérité, toute la vérité, de prêter serment. J'ai prêté serment. Et ensuite, a commencé le système, qui est un système difficile.
Dans cette prestation de serment, y a-t-il un symbole particulier ?
Non.
Non.
Non, il n'y a pas de symbole religieux, il y a simplement le fait « je jure de dire la vérité, toute la vérité », etc. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que il faut comprendre la règle du jeu. La règle du jeu, c'est qu'on ne se fait pas de cadeaux. On se quitte bons amis, mais on ne se fait pas de cadeaux. C'est vraiment le système anglo-saxon.
Vous aviez été averti avant, un petit peu, de ce qui vous attendait ?
Je n'étais pas averti. Simplement, j'ai rencontré un ami, enfin que nous sommes devenus amis, un des responsables du tribunal pénal international, qui est un Africain francophone de l'Ouest, qui est très sympathique, et qui m'a dit, attends-toi à tout, dans tous les cas, tu gardes ton calme. Je n'avais pas tellement enregistré, je me suis dit, attends-toi à tout, oui bon, s'attendre à tout, effectivement. Il avait bien fait de me dire, attends-toi à tout, parce que tout est arrivé. Donc, première jour, mais c'est bien passé, je rassure tout de suite les auditeurs. Tout est bien passé, parce que je suis quand même un vieux dur à cuire. Et alors,
vous ménagez vos effets, Bernard.
Oui, alors donc, la première journée, en fait, a été une grande journée d'histoire. Et là, nous sommes allés très loin dans l'histoire. Très loin, à la fois dans le temps et dans le détail. Dans le temps, dans le détail, les questions sur les... Alors, le président me dit, monsieur le professeur... Non, monsieur l'expert, pardon, on se donne pas les titres. Monsieur l'expert... Ah oui, ça a commencé à les étonner. J'ouvre une parenthèse. Ce sont mes titres universitaires. Alors, maître de conférence de première classe. Hors classe. Ça veut dire quoi pour des anglo-saxons? Alors, il a fallu que j'explique. Alors, je vais expliquer ce qu'était ce grade universitaire français. Et surtout, ce qui les étonnait, c'était la hors-classe. Alors, ça veut dire quoi? Alors, comme ce sont des anglo-saxons, je leur dis que c'est quelque chose qui permet de gagner plus d'argent. Alors, ils ont parfaitement compris, ils m'ont plus posé de questions. C'est un grade universitaire qui vous met au maximum de l'échelon, c'est l'équivalent des échelons lettres par rapport aux échelons chiffres. Bien. Alors, ils ont très bien compris ça. Pas la peine de faire de philosophie, vous leur dites, c'est un grade qui permet de gagner plus d'argent. Voilà, ils comprennent très bien. Puis ensuite, nous sommes passés aux choses sérieuses, qui était le débat scientifique. Alors, je suis parti de très loin, bien sûr. J'ai expliqué que les Tutsis et les Hutus étaient de deux populations différentes. J'ai expliqué les grandes migrations, etc. Alors le président me dit, écoutez, monsieur l'expert, c'est très très intéressant, c'est passionnant, mais si l'on en venait au génocide... Alors, je dis, non, monsieur le président, non, je vais en venir au génocide. Mais de toutes les façons, la défense qui me fait venir juge qu'il est nécessaire de remonter très loin pour expliquer l'actualité. Alors, deux, trois fois, le président... monsieur le président, moi, si vous m'arrêtez, je préfère tout arrêter. Parce que l'originalité, vous allez vous en rendre compte heure après heure, vous allez voir que l'originalité de mon expertise est précisément une expertise sur la longue durée historique. Et ce que je vous dis là, je vais le rattacher tout à l'heure à l'actualité. Parce que je vais vous montrer, au fur et à mesure de l'histoire du Rwanda, que les partis politiques qui vont se créer à partir de 1991 se rattachent à des courants doctrinaux et idéologiques qui existaient dans le Rwanda des années, par exemple, 1950-1955. Alors si vous m'empêchez, à ce moment-là, faites venir un journaliste qui va vous réciter l'histoire contemporaine et le catéchisme. Moi, je suis venu pour vous donner un éclairage qui n'est pas un éclairage journalistique, qui est pour vous donner un éclairage de scientifique qui a fait ses deux thèses sur le Rwanda, qui a travaillé pendant 11 ans sur le Rwanda, qui connaît intimement ces situations rwandaises. Alors le président l'a compris.
Vous avez le sentiment que oui, il a compris la justification. Oui.
D'autant plus que nous nous sommes trouvés à un moment donné. À la fin, tout était terminé, c'était le lendemain, par hasard, nous attendions, lui et moi, nos chauffeurs pour repartir, et il est venu spontanément vers moi, en me disant qu'il avait vraiment appris beaucoup de choses, et c'est un éclairage historique qu'il ne connaissait pas. Et c'est un homme qui a tout lu, c'est un homme tout à fait intéressant, une très grande pointure. C'est un homme qui va aller très loin dans la justice internationale, j'en suis persuadé. On sent que cet homme a une capacité qui est supérieure. Alors donc, ça se sent facilement. Et donc l'histoire, alors nous avons parlé des questions, puis des questions très précises, alors des questions de la défense, des questions du président également, parfois les juges. Ce qui fait que la discussion est allée excessivement dans le détail. Et j'ai vraiment pu... Alors, bien entendu, je vais avoir la bande magnétique. Il y a plusieurs... Il y a 7 ou 8 heures d'enregistrement. Je vais avoir l'enregistrement cinéma. Enfin, comment appelle-t-on ça? La vidéo. Vidéo de... Parce que j'ai oublié de vous dire que les débats sont retransmis à la télévision interne de l'ONU dans tous les bureaux. et qu'il y a un service de presse qui, tous les jours, envoie les dépêches, les résumés. Il y a les journalistes de Kigali qui sont là, etc. Donc c'est très médiatisé. Donc je vais disposer là de cette bande vidéo, et puis je vais disposer aussi, ce qui est très intéressant pour moi, du script de tout ce que j'ai dit. Que je vais bien entendu utiliser pour telle ou telle publication, parce que je suis allé au-delà de certains éléments sur lesquels j'avais travaillé. Ça m'a permis de progresser. Autant je ne progresse pas à l'université. Le niveau universitaire est de plus en plus bas tous les ans. Donc moi, ça fait 20 ans que je ne fais aucun effort à l'université. C'est pas la peine, parce que tous les ans, je baisse le niveau de mes cours. Tous les ans. Je pense que je vais finir au moment de ma retraite, je vais faire des cours comme on en faisait en classe de 3e, quand nous étions en 3e, Dominique. Bon, le niveau est tellement bas, il n'y a qu'au niveau de l'agrégation, on arrive encore à faire des cours qui se tiennent. Ce qui fait que...
Alors, vous avez fait un gros travail de préparation avant...
Ah oui, j'ai eu un mois complet où je n'ai fait que ça. J'ai fait que ça jour et nuit pendant un mois, parce que j'avais un mandat bien précis. L'ONU m'a envoyé un mandat en disant, voilà, vous venez faire une expertise sur tel thème. Voilà le cadre de votre expertise. Donc il a fallu que j'approfondisse tout ce qui était la vie des partis politiques rwandais entre 1991 et le génocide. Il a fallu que j'approfondisse toute la chronologie du génocide, donc j'ai énormément travaillé. Je suis allé en Belgique, je suis allé interroger des gens, j'ai fait un très gros travail. Mais il est évident que vous ne pouvez pas aller dans ce genre d'organisme si vous n'arrivez pas blindé, parce que on vous fait pas de cadeaux. Si vous êtes incompétent, vous n'êtes pas bon, vous partez. Hein. C'est un système très particulier. Hein. C'est un système. Il faut ça passe ou ça casse. Hein. Ça passe ou ça casse. Et en plus, vous avez quand même des gens qui sont accusés. Leur procès et leur avenir va dépendre en grande partie de ce que vous allez dire. Donc vous n'êtes pas là pour plaisanter. C'est quand même hyper sérieux. Alors donc, nous parlons d'histoire. Très intéressant. Nous parlons de politique. Et puis nous en arrivons au cœur du sujet, qui était en fait ce que l'on reprochait au ministre en question, je ne donne pas son nom, le ministre en question qui était inculpé de génocide et de crimes contre l'humanité. Alors, j'ai expliqué que cet homme, selon moi, était innocent pour telle raison. Et puis, j'ai commencé par démolir systématiquement le rapport de l'expert de l'accusation. Le rapport de l'expert de l'accusation, qui est un Canadien et qui est un militant des droits de l'homme, qui connaît le Rwanda, qui a fait des études sur le Rwanda, mais qui visiblement est dans l'idée tout le monde est coupable. Hein, tout le monde est coupable. Et ce qui fait que son rapport était très intéressant, mais un peu rapide. Un peu rapide sur les chronologies du 7, du 8 et du 9 avril. Et j'ai démonté complètement son rapport, en mettant son rapport en contradiction avec les faits, en contradiction avec la recherche, en contradiction avec les témoignages, et à l'issue de cela, eh bien, il ne restait plus rien de son rapport. Et il ne restait plus rien du rapport de l'accusation. Parce que le rapport de l'accusation reposait uniquement sur le fait que le ministre en question était coupable. En fait, un syllogisme. Un syllogisme tout à fait étonnant, et je l'ai démonté. J'ai dit au procureur, monsieur le procureur, vous ne raisonnez pas, vous faites des syllogismes. L'accusation a l'idée suivante. Le gouvernement qui a été créé par les militaires, le gouvernement civil, qui a été créé par les militaires le 8 avril 1994, était un gouvernement qui était composé uniquement de représentants des branches extrémistes des partis Hutus. Ce gouvernement a chapeauté le génocide. Le ministre en question était membre de ce gouvernement, donc le ministre en question a participé au génocide. C'est le syllogisme classique que l'on apprenait dans les classes de 6e à l'époque où l'on faisait ce genre d'exercice. Maintenant, sans doute, on l'apprend. Je ne sais pas si on l'apprend au niveau du master. Eh bien, ils peuvent pas à la fois être en grève et apprendre ça. Non, c'est le syllogisme de base. Bon. Alors, j'ai démonté le syllogisme. Et je l'ai démonté comment, le syllogisme? Et je dis, voilà, nous allons tout reprendre à zéro. Ce gouvernement a été créé par les militaires. Nous n'en avons pas la preuve. Les auteurs se reprennent les uns les autres pour dire que ce gouvernement a été créé par les militaires. Peut-être. Peut-être non. Dans tous les cas, par les militaires, par quels militaires, nous ne savons pas par qui. Premier élément. Deuxième élément, il est exact que la quasi-totalité des membres de ce gouvernement appartenaient aux ailes extrémistes des partis politiques Hutus. Or, il se trouve que trois ministres de ce gouvernement appartenaient à un parti qui, lui, a toujours combattu l'idée de l'ethnisme, s'est toujours opposé aux assassinats, s'est toujours opposé à la radicalisation et qui, au contraire, voulait la réunification et l'harmonie sociale. Qui plus est, ces ministres n'ont pas participé à l'élaboration du gouvernement, car l'élaboration du gouvernement s'est faite entre 7h du matin et 10h du matin le 8, et ces ministres sont arrivés sous escorte militaire, contraints et forcés, à 3h de l'après-midi. On les a reçus debout et on leur a dit, il y a 3 postes de ministres qui sont réservés à votre parti, vous êtes 3, choisissez les postes que vous voulez, mais vous ne sortez pas vivant si vous n'êtes pas ministre. Ça, je l'ai démontré. Ce qui fait que l'accusation tombait complètement. Car j'ai expliqué ensuite qu'ils étaient pris dans une logique de survie. Alors, oui, mais tel ministre fait un voyage à Nairobi 5 jours plus tard. Pourquoi n'a-t-il pas déserté? Oui, mais où étaient ses familles? Où était sa famille? Sa famille était à Kigali. Sa famille aurait été assassinée immédiatement. Donc, ces gens étaient otages. Ils ont dû être otages jusqu'au bout. Et je pense avoir bien mis à mal l'accusation.
Donc vous avez cassé l'accusation.
Complètement.
Et alors quel a été le comportement du procureur?
Alors après un jour et demi de grands débats scientifiques, alors système anglo-saxon, arrive ce que l'on appelle le contre-interrogatoire. Alors qu'est-ce que le contre-interrogatoire? Alors le contre-interrogatoire, c'est tous les coups sont permis. Le principe est pour l'accusation de décrédibiliser l'expert. Déstabiliser et décrédibiliser. Et là, le procureur était obligé de le faire parce que mon expertise avait cassé complètement l'accusation. Ce qui fait que il n'avait plus qu'une carte à jouer, c'était me décrédibiliser pour pouvoir dire, bon, écoutez, cet expert vous a dit des choses fort intéressantes, mais c'est quelqu'un de peu recommandable, cet expert. Parce que voilà qui est cet expert. Alors là, chers auditeurs, c'est là où commence la grande rigolade. C'est là où commence la grande rigolade. Pourquoi? Parce que le procureur qui est tanzanien fait une recherche sur Internet. Et il tape Bernard Lugan. Et vous savez que depuis des années, j'ai de nombreux procès. Je vais suffisamment raconter cela ici. Vous savez que depuis des années, tous ceux qui n'arrivent pas à me contredire scientifiquement me mettent sur le dos des étiquettes qui ne sont pas les miennes. Par exemple, l'on a cherché plusieurs fois à dire que j'étais un négationniste, ce qui est faux, car je ne le suis pas. Et en plus, j'ai gagné 12 procès sur la question. Et en plus, c'est une question qui ne m'intéresse pas. Moi, je fais de l'histoire de l'Afrique, je ne fais pas de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et sur les sites Internet, vous avez un dénonciateur professionnel qui s'appelle Didier Deninck, qui a un site de dénonciation, qui reprend toutes les accusations, et qui sont des accusations qui se baladent sur Internet, que je ne peux pas faire effacer, car il y a prescription, parce que l'Internet, c'est diabolique. Il y a des prescriptions qui sont les mêmes que pour le droit de la presse. Et si vous laissez passer le temps de la prescription, vous ne pouvez plus rien faire.
C'est-à-dire 2 mois, oui.
Donc, pour l'éternité, les accusations contre moi circulent. Le procureur, qui est la différence du procureur français, n'instruit pas à charge et à décharge, prend Internet et écarte tout ce qui sur Internet m'est favorable et extrait d'Internet tout ce qui m'est défavorable. Et tous les ragots, toutes les calomnies, toutes les dénonciations. Et le procureur commence ainsi. Alors là commence vraiment l'amusement. Le procureur commence ainsi. Alors, monsieur l'expert, c'est tout à fait intéressant. Vous avez une idée qui est une idée que personne ne partage. Vous dites que les Tutsis et les Hutus sont des races. Ah, je lui dis, monsieur le procureur, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je dis que les Tutsis et les Hutus ont des origines différentes. Et je vois que la définition de race est quelque chose qui vous choque. Alors je dis qu'ils ont des différences génétiques. Êtes-vous d'accord? Bah, acceptons ce point génétique. Mais, monsieur Lugan, voici le dossier que j'ai sur vous. Et le procureur me sort un dossier tout à fait extraordinaire avec toutes les affaires de Lyon 3 et notamment, Dominique, quand Jésus-Christ créa la coloniale. Le carnaval de Lyon 3.
Ça a dû avoir un certain succès.
Grand succès. Parce que, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, j'avais l'habitude à Mardi Gras, pour Mardi Gras à Lyon, de me déguiser avec mes étudiants. Et je me déguisais, j'ai un superbe uniforme des lanciers du Bengale, de lieutenant du 6e régiment des lanciers du Bengale, et je rentrais dans l'amphithéâtre, dans le grand amphithéâtre, en uniforme de lancier du Bengale. Mes étudiants étaient déguisés, tous les déguisements, et nous chantions. Et la tradition était, comme je faisais un cours sur l'histoire de l'expansion européenne, je faisais chanter à mes étudiants « Quand Jésus-Christ créa la coloniale ». Le chant que nous connaissons tous, et qui est un merveilleux chant, qui est avec des clins d'œil tout à fait extraordinaires, à divers tiroirs. Et le procureur, alors imaginez, chers auditeurs, un procureur tanzanien parlant en anglais, traduction simultanée en Kinyarwanda et en français. Vous avez fouetté vos étudiants qui ne voulaient pas chanter quand Jésus-Christ créa la coloniale. C'est intéressant.
Ça devait être assez croquignolé.
Alors, ça devient tout à fait croquignolé. Alors, j'étais partagé entre plusieurs sentiments, l'éclat de rire, j'ai éclaté de rire d'ailleurs, l'indignation ou le mépris. Ah oui, monsieur le procureur, vous êtes en train, là, de nous administrer la très belle leçon de quelqu'un qui ne sait pas manier Internet. Voilà, vous nous montrez ce qu'est le danger d'Internet. Parce que sur Internet, il y a le pire et le meilleur. Et comme vous n'instruisez qu'à charge, vous prenez le pire et vous n'avez même pas vérifié la véracité de ces accusations. Alors, monsieur le procureur, je dois vous dire que pour toutes ces accusations, j'ai gagné des procès. J'ai gagné 12 procès. Alors, j'avais quand même eu, l'idée de porter avec moi un exemplaire de mon petit recueil de procès, vous savez, que j'avais publié il y a
quelques semaines. Oui, parfaitement.
Que j'ai envoyé. Je signale aux auditeurs qu'il m'en reste encore une centaine. Il suffit de m'écrire à l'Afrique réelle, boîte postale numéro 6 03 140, et je vous enverrai le petit recueil avec, c'est assez humoristique, mes principaux procès gagnés. C'est intitulé 20 ans de combat judiciaire, où je reprends mes principaux procès gagnés contre Yvan Levaille, contre Pollack, contre le Canard Enchaîné, contre VSD, contre le Figaro, contre tout l'establishment. Et je dis, voilà. Alors le procureur, le président, dit, nous l'inscrivons au dossier, etc. Et le procureur me dit, mais oui, mais vous avez fouetté vos étudiants. Alors, je dis, écoutez, monsieur le procureur, soyons sérieux. Pouvez-vous imaginer une seule seconde, dans un pays comme la France, les châtiments corporels n'existent pas. Si j'avais fouetté mes étudiants... imaginez, j'aurais été mis en prison ou dans un asile de fous. Et je ne serais pas professeur à l'université comme je le suis maintenant. Alors je me tourne vers le président et je dis, monsieur le président, là, il est quand même temps d'arrêter. Parce que je viens de quitter pour plusieurs jours mon université en France. Mes étudiants sont à un mois des examens. Mes autorités universitaires m'ont permis de ne pas donner cours pendant ce délai, tout simplement parce que je venais pour un intérêt supérieur, qui était la justice internationale. Et je viens ici, respectueux de cette grande œuvre que vous faites, et je constate que je suis tombé dans une cour de récréation, et je constate que monsieur le procureur est en train de ridiculiser la justice internationale. Et je me tourne vers le procureur et je dis, monsieur le procureur, ces ragots de pissotière sont indignes du TPIR. Alors, les cabines de traduction s'allument. Comment traduire en anglais et en Kinyarwanda ragots de pissotière? Alors, la séance s'arrête et nous discutons. Et nous convenons ragots de caniveau. Ça va. Et le procès continue. Et je termine en me retournant vers l'accusé. Et en disant, monsieur le président, dans tous les cas, nous sommes ici pour discuter et juger du sort d'un homme qui risque la prison à vie, car il est tout de même inculpé de génocide. Que doit penser cet homme qui est entre deux gardes du comportement de monsieur le procureur, qui, au lieu de me poser des questions scientifiques sur mon domaine d'expertise, comme il n'a rien, comme il a un dossier vide, et comme j'ai démoli son dossier d'accusation, m'attaque d'une manière déloyale en maniant la calomnie et en maniant les ragots. Alors là, le président a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire en droit anglo-saxon, parce que le procureur est totalement libre de dire ce qu'il veut dire. Et le président se tourne vers le procureur et dit « Monsieur le procureur, l'expert a juré au début qu'il disait la vérité. Il vous a dit que toutes ces calomnies ont été sanctionnées par des procès gagnés. Il vous fournit la preuve de ces procès gagnés. Arrêtons là et passons à l'argument scientifique. Et monsieur le procureur interroge Philippe Conrad qui rentre dans le studio. Bonsoir Philippe. Et monsieur le procureur interroge donc l'expert sur son sujet d'expertise. Alors là, le procureur était en train de flageoler parce que, si vous voulez, c'était le toréador qui se fait encorner par le taureau. Ben, c'est embêtant, là. Et il ne savait plus où il en était, le brave homme. Il me dit, bon, très bien, je vais vous poser une question sur votre domaine d'expertise. Et là, il me pose une question et au sens vulgaire du terme, il se plante de 20 ans en confondant les personnages, en confondant les événements, etc. Mais vraiment, l'erreur totale. Alors, je lui dis, monsieur le procureur, je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez manié la calomnie et le ragot. Parce que non seulement votre dossier est vide, mais en plus vous ne le connaissez pas. Et c'était mon dernier échange avec le procureur.
C'est une jouissance, non ?
Ah, une jouissance. Alors, je l'ai d'ailleurs salué ensuite. Monsieur le procureur, je vous remercie infiniment pour les questions que vous m'avez posées. Et le débat recommence à devenir scientifique. Donc, le président reprend la parole et le président demande au juge d'intervenir. Le juge pakistanais n'intervient pas. La juge pakistanaise n'intervient pas. Et la juge ougandaise me pose deux questions. Deux questions auxquelles je réponds très facilement. Elle n'a pas compris la signification d'une carte. Alors, je lui ai expliqué la signification de cette carte. Et le président reprend la parole. Et le président continue son interrogatoire. Alors, avec le président, c'était une autre pointure. Là, nous allions vraiment tout à fait loin. Et le président me dit, j'ai une dernière question à vous poser, monsieur l'expert. Et là, il me pose la question piège, mais vraiment totale. C'est-à-dire que si j'étais tombé dans son piège, mon expertise était très largement décrédibilisée. Il me dit, très intéressant votre argumentation sur la journée du 8, parce que si je vous suis bien, l'argumentation qui est la vôtre aboutit à la conclusion qui est que l'accusé était otage, et l'accusé n'a pas participé à l'élaboration du gouvernement. Il était mis devant le fait accompli. Je lui dis tout à fait, monsieur le président. Alors, si je résume bien ce que vous avez dit le président, vous êtes basé sur vos recherches, et vous êtes basé sur un tel, n'est-ce pas ? Je dis oui, monsieur le président. Alors, pour la journée du 8, très exactement, donc, soyons plus précis, vous confirmez votre analyse en vous basant sur un tel et un tel. Je dis, ah non, monsieur le président, non. Pour la journée du 7, du 8 et du 9, les noms que vous citez sont des noms d'auteurs qui confirment ce que je dis. Mais pour la journée du 8, retirez le nom du second auteur, car ce second auteur ne parle pas du tout de la journée du 8. Et le président me fait signe de la tête, il m'a étendu un piège. Il voulait savoir si je connaissais bien ma littérature, je ne la connaissais pas. C'était la dernière question. Et là, le président m'a remercié. Nous nous sommes tous congratulés. L'on m'a souhaité un bon voyage de retour. Et je suis parti. Nous saluons le général Bach qui vient de rentrer. Bonsoir, mon général. Et nous sommes en direct, mon général. Est-ce qu'on évite des bruits de studio, s'il vous plaît? Alors donc, nous quittons, et à partir de ce moment-là, nous passons à une autre phase, mais je vous raconterai ça dans deux minutes, après la pause technique, parce que ça fait un petit moment que je parle, et les auditeurs doivent commencer à être lassés. Une petite pause. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Nous parlions du tribunal pénal international pour le Rwanda avec Dominique Vénère. Victoria nous a rejoint. Des questions d'auditeurs, Victoria?
Oui. Je signale qu'il y a un certain nombre de jours, France Info a fait mention de votre déposition devant le tribunal d'Arusha sans commentaire de sa part. Un auditeur qui finance l'organisation du TPI.
Bien, les États.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler l'importance relative des différentes ethnies au Rwanda?
85% pour les Hutus, 15% pour les Tutsis.
A-t-il été rappelé que les soldats français de l'opération turquoise ont, sans le vouloir, protégé les assassins Hutus dans un premier temps?
J'en ai pas parlé, mais effectivement, ça a été un des résultats. L'opération turquoise était une superbe opération, parfaitement bien réussie au point de vue technique, mais politiquement, c'était une mauvaise opération. Et résultat de cette mauvaise opération politique est résulté la création d'un Hutuland au Zaïre, et pendant 2 ans, une guerre civile, et un deuxième génocide, mais une deuxième vague de mortalité importante qui s'est déroulée du côté zaïrois dans ces camps qui ont été artificiellement pris en charge par la communauté internationale.
Que veut dire safari en swahili?
Ah, voyage, expédition.
Je ne demanderai pas à M. Lugan de nous chanter les neiges du Kilimandjaro, mais
non.
Pour Noël.
Non.
Qu'est-ce que c'est de
c'est
nous
une belle
passer.
Chanson. Elles quand te il... feront un blanc manteau, les neiges du Kilimandjaro.
Ah d'accord, mais il vous demande de le chanter quand vous recevrez... Enfin, ou de le faire passer quand vous recevrez le général Bach, archive de Vincennes, la chanson de Craon.
Ah. Bon.
C'est terminé pour le moment.
Bon. Alors, nous en étions donc à la fin de cette session du tribunal pénal international. Alors, le lendemain, tout l'aspect administratif, tout l'aspect bibliothèque, etc. Et c'est là où j'ai vraiment pu voir, enfin, le lendemain, les jours qui suivaient, où j'ai vraiment pu voir comment fonctionnait ce système de l'intérieur, et j'ai pu voir tous les divers rouages qui étaient ceux de ce tribunal. Voilà ce que l'on peut dire sur cette expérience très enrichissante et tout à fait intéressante, parce que l'on voit le décalage qui peut exister entre ce qui se passe en France avec l'idéologie. J'ai par exemple, quand vous lisez le rapport parlementaire français sur la question du Rwanda, parce que vous savez qu'après les événements du Rwanda, après le génocide, la France avait été accusée de complicité, ce qui est une erreur totale, et une commission parlementaire s'est réunie et a produit un énorme rapport en 2 tomes, excessivement, en général, le bruit des feuilles dans le micro, un rapport en 2 tomes, tout à fait important et tout à fait détaillé. L'on est affligé, l'on a presque envie de pleurer lorsque l'on voit sur quelles bases historiques repose l'analyse de l'histoire du Rwanda ancien. Ce rapport parlementaire n'a auditionné comme expert que l'équipe de Jean-Pierre Chrétien, Jean-Louis Amsel, etc., ceux qui disent que les ethnies n'existent pas, ceux qui disent que quand elles existent, c'est la colonisation qui les a créées, ou que les ethnies ont été amplifiées par la colonisation, que les riches étaient les Tutsis, comme ils buvaient du lait, ben ils ont grandi, et que les pauvres qui mangeaient des haricots étaient les Hutus, donc ils n'ont pas grandi. Et c'est à ce niveau de simplisme, voilà où en est la France. Voilà où en est l'intelligence française, et le rapport parlementaire, je n'ai pas été convié par ce rapport parlementaire, ce rapport repose sur un substrat idéologique post-68art, post-marxiste des années 60. Quand j'ai dit que la France était une Albanie intellectuelle, c'est exactement cela. Et cette intelligence française, ces élites françaises vont crever. Et tant pis pour elles. Tant pis pour elles. Ce sont des autistes. Ils sont autistes par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais il n'y a qu'en France que l'on voit ça. Parce que vous passez en Belgique, c'est différent. Vous passez en Espagne, c'est différent. Alors moi qui voyage beaucoup, chaque fois que je rentre en France, je suis dans une réserve. J'ai l'impression d'être dans l'Albanie d'Enver Hoxha, avec les petits marquis post-68art qui tiennent le pays, et la pseudo-droite qui fait des entrechats. C'est tout à fait incroyable, parce que il n'y a aucune réaction contre ces bastilles intellectuelles qu'il faut faire tomber. Aucune réaction. Regardez, ce malheureux ministre qui a voulu simplement harmoniser les diplômes pour que les étudiants français ne soient pas considérés comme des cloportes lorsqu'ils arrivent dans les universités étrangères. Eh bien non, les droits acquis. Il faut défendre nos petits droits acquis. Alors que tout le problème français vient du fait qu'avec 80% de réussite au bac, vous pouvez pas créer des élites, c'est bien évident. Et que les élites, vous les trouvez dans les classes préparatoires, vous les trouvez plus à l'université, les élites. Les élites, vous les savez dans les classes préparatoires, dans les grandes écoles. L'université devient un parking pour les 60% de gens qui ont le bac et qui ne mériteraient pas d'avoir le bac. Voilà le problème, et le système français, c'est ce nivellement par la base, et cette idéologie qui fait que tout est paralysé. Alors c'est un grand courant d'air quand vous avez la chance de pouvoir aller travailler dans un milieu anglo-saxon, comme je l'ai fait au tribunal pénal international. Parce que vous avez, même si vous vous faites attaquer, d'une manière déloyale, eh bien, ça n'a pas de conséquences. Parce que votre expertise est passée. En France, l'on aurait dit, monsieur Lugan, vous êtes ceci, ceci, cela, vous n'avez pas droit à la parole. Tandis que là, l'on m'a donné la parole.
Vous avez été écouté.
J'ai été écouté, et on a dit, mais vous savez... ce qu'a dit cet expert, c'est très intéressant. Mais cet expert, c'est ça, ça et ça. Alors donc, pour votre gouverne, tempérez l'écoute que vous avez eue. Mais on ne m'a pas empêché de parler. Et ça n'aura pas de conséquences pour le jugement. C'est un système totalement différent. Il y a une liberté qui existe dans ce monde anglo-saxon qui, pour les gens comme moi qui sommes au milieu du goulag intellectuel, parce que nous sommes, nous, à l'université, dans un goulag intellectuel total, nous sommes, si vous le voulez, c'est le camp numéro un, parce que on est obligé de faire attention à ce que l'on dit dans les cours. Moi, je m'auto-censure en permanence. Il y a des tas d'éléments d'histoire que je n'aborde pas en histoire africaine, parce que le public est en face de moi n'est plus un public de gens éclairés. C'est-à-dire le public que l'on pouvait avoir il y a 20 ans à l'université est un public qui avait lu, qui était apte à comprendre des choses. Là, nous n'avons affaire qu'à des gens qui réagissent par schéma. Mais je vais vous citer un exemple. Hier, j'étais en cours, j'avais un amphi, et je parlais du commerce en mer Rouge à l'époque des Ptolémées, la dynastie Lagide d'Égypte. Et je disais à mes étudiants, si vous voulez en comprendre ce qu'est la mer Rouge, si vous voulez en comprendre les climats, la navigation, lisez Henri de Montfred. Alors, je vois un amphi qui me regarde avec des yeux ronds, des yeux de carpe froide.
Qui est Henri de Montfred?
Alors, je me dis, qui dans cet amphi a entendu parler d'Henri de Montfred? Personne n'a levé la main. Pas un étudiant. Nous, quand nous avions 15 ans, nous avions lu tout Henri de Montfred. À la récréation, nous discutions sur Fortune Carrée, du Harare au Kenya, les secrets de la mer Rouge. On parlait de cela. Je dis, mais vous allez rentrer chez vous et dans la bibliothèque de vos parents, vous allez prendre Henri de Montfred. Mais je suis certain qu'il n'y a pas de bibliothèque des parents. Parce que c'est un autre milieu sociologique qui est à l'université maintenant. Maintenant, l'université est ouverte à tout le monde. Donc, étant ouverte à tout le monde, avec les 80% de réussite au bac, vous n'avez plus de gens cultivés. Les gens cultivés sont pas là. Les gens cultivés sont en Cannes, Hippocagne, ils sont dans les grandes écoles. Où arrivent chez nous les gens qui ont raté les grandes écoles? Mais ce sont les meilleurs chez nous. Ils sont au-dessus du lot. Les autres, malheureusement, sont dans une structure qui n'existe plus, qui ne forme plus le savoir, qui ne forme plus à la culture, puisque ces gens n'ont pas de base culturelle au départ. C'est là que repose tout le problème français. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement pour montrer cette immense liberté. C'est pour ça, les auditeurs, certains auditeurs me reprochent, notamment les lettres anonymes. Alors, je demanderai aux deux, trois courageux anonymes qui m'envoient des lettres en disant, Monsieur Lugan, vous employez des termes anglais, etc. Alors, signez votre nom, envoyez votre numéro de téléphone, on discutera, hein, n'est-ce pas? Mais les lettres anonymes sont des lettres envoyées par des gens méprisables. Notamment monsieur qui signe dur à épater. Un monsieur qui signe dur à épater et qui envoie des lettres sans arrêt, Monsieur Lugan, vous employez des termes en anglais, etc. Bon, eh bien, j'emploie des termes en anglais parfois, bien sûr, mais la liberté pour nous qui vivons dans le goulag intellectuel de travailler dans un monde anglo-saxon n'a pas de prix. Et c'est ainsi que un ballon d'oxygène existe.
Mais voilà. C'était une grande première, puisque pour la première fois, en raison de vos compétences et de l'approche qui est la vôtre de l'histoire de l'Afrique, c'est la première fois que devant une institution internationale, l'histoire de l'Afrique pouvait être exprimée et montrée de façon aussi libre.
Tout à fait. Alors quand j'ai expliqué ma théorie sur les peuples dominants et sur les peuples dominés, quand j'ai expliqué ma théorie sur le fait que la colonisation a libéré les esclaves et a cassé les dominants, a cassé les empires, les Africains sont venus me voir le lendemain en me disant « Mais c'est extraordinaire, on a jamais entendu cela, etc. » Et ça a été tout à fait intéressant. Et là, j'ai ouvert des éléments de discussion avec de très nombreux hauts fonctionnaires de l'ONU africains, et nous allons rester en contact, et je vais être invité ici ou là pour exposer mon point de vue. Alors, pas en France, bien sûr, mais quel est le problème? Où est le problème, la France, pour le moment, reste derrière ses bunkers albanais. Et puis, nous verrons ensuite le courant d'air balayera tout ça. Mais il faut travailler dans d'autres secteurs. Voilà, fin du tribunal pénal international. Mais je pense que les auditeurs ont pu être intéressés par cette expérience de type ethnographique et ethnologique qui fut la mienne la semaine dernière, enfin un peu plus de la semaine dernière. Victoria, question ?
Pas de questions pour le moment.
Victoria, si nous passions les annonces, comme ça ce serait fait. Je voudrais que nous vous insistions sur l'annonce de Renaissance catholique.
Oui, ben, je commence. Bon.
Nos amis de Renaissance catholique qui tiennent leur salon du livre annuel. Allez-y, Victoria.
Mais je l'ai pas. Elle n'est pas classée. Voilà. Bon, alors laissez-moi la trouver. Merci, vous êtes gentil. Alors, pour la 12e année consécutive depuis 1992, Renaissance catholique organise une vente dédicace de livres. Cette journée aura lieu le dimanche 14 décembre prochain au Palais des Congrès de Versailles, rue de la Chancellerie, numéro 6 et 8 et 10. De 11h à 18h, plus de 100 auteurs. Plus de 100 auteurs, vous me mettez dans. Bon, plus de 100 auteurs sont attendus entre 14 et 18 heures pour dédicacer leurs œuvres. Conférence, 15 heures, Jean de Vigry, Louis XVI, le roi bienfaisant. 15h45, Jean Sévilla, historiquement correct. 16h30, Michel de Gégère, La repentance, pourquoi nous ne demandons pas pardon. 17h15, Geneviève de Galard, une femme à Dienne bien fou. Participation 6 euros. 4 euros pour les adhérents de Renaissance catholique et les étudiants, entrée libre pour les enfants, garderie d'enfants sur place de 14h à 18h. Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 93 130 ici les Moulineaux, téléphone 01 46 62 97 04. Vendredi prochain, 28 novembre, de 17 à 19h, Claude Meunier-Berthelot dédicacera réponse à la lettre de Luc Ferry. Marina Tchebourkina, organiste, dédicacera Claude Balbastre à Saint-Roch, orgue, double CD contenant l'intégrale des Noëls de Balbastre. Excusez-moi, je sors vraiment des embouteillages. Samedi prochain, 29 novembre, de 15h à 18h30, Laurent Lagartempe dédicacera le petit guide du Coran. Xavier Martin dédicacera Mythologie du Code Napoléon. Monsieur l'abbé Guillaume de Tannouarn dédicacera Vatican II et l'Évangile, ainsi que La paille et le sycomore à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Métro RER Saint-Michel, Notre-Dame. Alors, refus de l'expérimentation sur l'embryon humain. Un enfant conçu n'est pas un cobaye. Toute une grande quantité d'associations pour la vie vous appelle à vous rassembler le mercredi 3 décembre de 13h à 15h près de l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot dans le 7e métro Assemblée nationale. Ces associations dénoncent le projet de loi relatif à la bioéthique qui doit être examiné très prochainement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Contact presse, Marie-Aline Chevreau, téléphone 01 53 70 84 27. Le jeudi 4 décembre à 20h30 à la salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, 6 euros, 4,5 euros pour les étudiants et les chômeurs, Georges-Paul Wagner parlera du nationalisme français.
Bien. Victoria, les autres annonces tout à l'heure.
Plus tard.
Voilà. Alors nous allons passer maintenant à la seconde partie de l'émission. Seconde partie de l'émission avec Dominique Vénère. Et une seconde partie de l'émission qui va être consacrée aux énigmes du terrorisme. Dominique Vénère, le numéro 9 de la nouvelle revue d'histoire que vous dirigez. Superbe revue, parfaitement documentée, tellement agréable à lire, tellement enrichissante. Ce numéro 9... contient en couverture, présente en couverture un titre, en jaquette, Les énigmes du terrorisme. Et dans ce numéro, vous traitez bien sûr bien d'autres sujets que du terrorisme, et vous avez notamment un certain nombre d'entretiens, un certain nombre d'articles. Vous avez notamment le portrait entretien avec Marc Fumaroli, qui est une charge tout à fait intéressante et tout à fait sévère et réjouissante contre la modernité. Vous avez un excellent article sur Leni Riefenstahl, un excellent article également de Maurice Sallet, prix Nobel d'économie, etc. D'autres, de très nombreux articles. Mais venons-en au terrorisme. Venons-en au terrorisme parce que vous êtes totalement au cœur de l'actualité avec cette question. Votre dossier terrorisme est tragiquement illustré. Il suffit d'écouter la radio, il suffit d'ouvrir un poste de radio, l'Irak,
la Turquie
et ailleurs, ce qui risque d'arriver, ce qui peut arriver, ce qui va arriver. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans cette revue que vous dirigez, que vous avez créée, la nouvelle revue d'histoire, c'est que vous partez toujours de la base historique pour expliquer l'actualité, pour comprendre, pour éclairer, pour décortiquer les énigmes actuelles. Alors j'aimerais vous poser trois questions. Trois questions parce que nous pourrions passer une émission entière sur ce sujet, mais nous avons le général Bach qui va nous parler de choses tout à fait intéressantes tout à l'heure, et nous voulons quand même garder une heure et demie avec le général Bach pour pouvoir approfondir ce sujet sur lequel l'on a dit tellement de bêtises et qui va être remis à l'endroit par le général. Alors, Dominique Vénère, trois questions. Première question, le XXe siècle fut-il le siècle du terrorisme ?
On pourrait dire cela, effectivement. Le terrorisme est un phénomène nouveau, c'est une méthode de guerre. C'est une méthode de guerre politique, c'est une méthode de guerre civile. Les guerres civiles, dans le passé, ont utilisé évidemment la terreur, mais jamais sous la forme systématisée que l'on a vu apparaître au XXe siècle, ou pour être plus exact, que l'on a vu apparaître à la fin du XIXe siècle, puisque il est possible de suivre très rapidement l'histoire du terrorisme au XXe siècle en plusieurs étapes. La première étape, celle de la naissance, correspond en effet à la fin du XIXe siècle, précisément l'apparition du phénomène du nihilisme en Russie dans les 20 dernières années du XIXe siècle. Simultanément, on voit un phénomène analogue se développer non seulement en France mais en Europe occidentale avec le courant anarchiste. Et puis apparaît ensuite une deuxième époque, avec celle d'une extension du terrorisme après 1917 et après la Première Guerre mondiale. On voit se développer dans plusieurs régions ou dans plusieurs pays européens, par exemple en Irlande, avec ce mouvement très important de l'IRA, qui obtiendra grâce à la méthode du terrorisme et qui obtiendra de l'Empire britannique l'indépendance de l'Irlande, qui arrachera l'indépendance de l'Irlande après deux années de lutte terrible. On voit en Europe centrale, par exemple, le mouvement de l'Ustasha croate contre l'État yougoslave et d'autres phénomènes analogues. Mais cela reste encore relativement limité. Et puis, une troisième période dans l'histoire du terrorisme s'ouvre avec la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que l'on passe à ce moment-là à la généralisation du terrorisme. Pourquoi ? Parce que certaines puissances, à commencer par l'Angleterre, dans la situation difficile qui était la sienne pour lutter contre l'Axe, pour lutter contre l'Allemagne, songe utiliser ou favoriser le terrorisme dans toutes les régions d'Europe occupées et ultérieurement en Extrême-Orient dans les régions, dans les pays qui étaient occupés par le Japon. Favorisant les mouvements de résistance, mais entre résistance et terrorisme, il y a résistance armée et terrorisme. Il y a souvent une frontière faible. Il est fréquent que la distinction provienne tout simplement du parti auquel on appartient. Pour ses propres, pour ceux qui défendent ses propres couleurs, eh bien, ceux qui luttent par les moyens inhabituels de violence, par les attentats, etc. S'ils appartiennent à son propre camp, ce sont des résistants. Si ce sont les adversaires, on les appelle naturellement terroristes. Et ça, cette distinction sémantique est évidemment constante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le soutien systématique apporté aux maquis, aux combattants irréguliers, par la Grande-Bretagne d'abord, par d'autres puissances ensuite, non seulement développé ce type d'action, mais ont modifié l'interprétation que l'on s'en faisait. La vision que l'on pouvait avoir de la guerre irrégulière, la vision que l'on pouvait avoir de l'action du franc-tireur, qui jusque-là était unanimement condamné, se trouve complètement modifiée. Et l'ancien franc-tireur condamné devient un résistant qui est un héros. Et ce changement de prisme, ce changement de représentation dans la guerre irrégulière, dans la guérilla et dans le terrorisme, va favoriser considérablement l'extension du terrorisme dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, avec tous les mouvements de décolonisation qui partout vont l'utiliser avec une intensité plus ou moins grande, et au-delà des mouvements de décolonisation, des mouvements révolutionnaires, par exemple en Europe, soit l'ETA basque contre l'État espagnol, le mouvement des Brigades Rouges en Italie, d'autres en Allemagne, en France même, vont utiliser donc ces moyens qui sont ceux du terrorisme, qui ont comme but non pas de vaincre l'adversaire comme dans la bataille, suivant les modes classiques de la guerre, mais qui ont comme objectif de contraindre l'adversaire à s'incliner devant des exigences. Le terrorisme a pour but, en quelque sorte, d'influencer l'adversaire et de le contraindre, et non pas de le vaincre. Ce grand développement qui court jusque dans les années 1980, ce grand développement va trouver au Moyen-Orient un cadre nouveau, celui évidemment de la lutte des Palestiniens et celui peu à peu d'autres combattants musulmans. Et c'est dans le passage entre ce que l'on peut appeler l'ancien terrorisme tel qu'il avait été vécu avec un développement de plus en plus accentué pendant tout le XXe siècle, notamment pendant la deuxième partie du XXe siècle, et la transformation qui se fait à la fin du XXe siècle, avec l'apparition d'un phénomène nouveau qui est celui de l'islamisme révolutionnaire, peut-on dire, qu'apparaît un nouveau terrorisme.
Dominique, il nous reste 3 minutes avant la pause de 7h30. Je vous pose une question, 3 minutes pour y répondre. Malgré leur superpuissance, malgré tous leurs moyens, les États-Unis d'Amérique semblent impuissants aujourd'hui face au terrorisme en Irak, notamment. Pourquoi ?
Alors, 3 minutes, c'est un petit peu court pour répondre à ça, mais je vais commencer à répondre. Dans ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, quelqu'un répond à ce sujet-là dans un article, entretien, qui est tout à fait éclairant, et je ne peux que conseiller aux auditeurs qui sont intéressés de s'y reporter. L'auteur est Xavier Offer, qui est directeur de recherche à l'Institut de criminologie de Paris, l'Université de Paris 2 à Saas, et qui répond avec une grande clarté. Je vais résumer très succinctement le propos qui est le sien.
Très remarquable article.
Très remarquable. Ce n'est pas simplement un bon spécialiste, mais c'est quelqu'un qui a l'esprit extrêmement clair, vif, incisif. En substance, mais nous y reviendrons évidemment après la coupure, pourquoi les Américains s'enlistent-ils dans la lutte contre le terrorisme ? Réponse de Xavier Offer. D'abord et avant tout, parce qu'il y a de leur part une erreur de diagnostic. Il y a une méconnaissance des réalités de l'islam, des réalités du fondamentalisme islamique, des réalités du cœur même de ce fondamentalisme, c'est-à-dire l'Arabie, c'est-à-dire le mouvement du wahhabisme, du salafisme, etc. Et cet univers que les Américains ont pourtant côtoyé depuis maintenant 70 ans leur semble toujours aussi imperméable et toujours aussi inconnu. Pourquoi ? Vraisemblablement parce que les Américains, plus encore que nous-mêmes, Européens, sont marqués par une vision des choses, et les hommes sont toujours ce qu'est leur vision des choses. Leur vision des choses universaliste leur fait penser que tous les hommes et tous les peuples sont analogues et doivent, à un moment donné, se comporter de façon identique. Et ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ont affaire à des peuples, à une culture, à des comportements qui sont totalement différents des leurs. D'où l'erreur de diagnostic constante. Mais, si vous voulez, nous y reviendrons dans un instant.
Alors, nous allons rendre le micro à la régie pour cette petite coupure technique de 3 ou 4 minutes.
Yeah.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Alors nous avons longuement parlé du tribunal pénal international d'Arusha, et nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission avec Dominique Vénère, et nous parlons du terrorisme à propos de la parution du numéro 9 de la nouvelle revue d'histoire, revue qu'il a créée et qu'il dirige. Alors vous en étiez, Dominique, à répondre à la seconde question que je vous posais, qui était très simple. Malgré leur puissance surdimensionnée, on pourrait dire, les États-Unis semblent impuissants à lutter contre le terrorisme. Et vous aviez, je vous demandais pourquoi, et vous aviez commencé à expliquer, mais j'aimerais que vous alliez plus loin dans votre explication, s'il vous plaît.
Oui, je disais en m'appuyant sur Xavier Hofer, qui, dans ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, a publié un entretien tout à fait éclairant sur ce sujet. Je disais que la raison initiale ou centrale de l'enlisement américain, c'est une erreur de diagnostic. Alors, exemple. Depuis le 11 septembre, les États-Unis, leurs organes divers d'expression, accusent une organisation, Al-Qaïda. Et la présentation qui en est faite est celle d'une organisation classique, avec un chef, un numéro 1, quelques numéros 2, des numéros 3 beaucoup plus nombreux, etc. Donc l'organisation pyramidale classique que l'on connaît, qui existe en matière de terrorisme. L'IRA est organisé de cette façon-là, l'ETA est organisé de cette façon-là, etc. Mais en ce qui concerne ce nouveau terrorisme, il semble bien que l'on ait affaire à quelque chose de totalement différent. Ce qui le montre, c'est que depuis le 11 septembre, depuis 2 ans, l'action répressive menée par les États-Unis, leurs alliés, etc., partout dans le monde, contre ce qu'on appelle Al-Qaïda, a été extrêmement importante. Il y a eu, d'une part, l'opération militaire menée contre l'Afghanistan, et dans plus de 50 pays, de très nombreuses arrestations de membres et dirigeants présumés d'Al-Qaïda. On estime qu'il y a eu à peu près 5000 arrestations de cadres importants. Or, si l'on prend le cadre habituel d'une organisation pyramidale, par exemple, la CIA, ou par exemple une grande entreprise multinationale qui fonctionne comme dont la pyramide de fonctionnement peut être analogue à celle d'un mouvement politique ou d'un mouvement terroriste. Eh bien, imaginons que 5000 cadres supérieurs de la CIA aient été soit tués, soit arrêtés, ou que 5000 cadres supérieurs de la compagnie Ford aient été tués pour je ne sais quelle raison ou éliminés, il n'y aurait plus de CIA, il n'y aurait plus de compagnie Ford. Or, malgré ces opérations de décapitation, Al-Qaïda fonctionne toujours, puisque on en voit les manifestations constantes et répétées. C'est donc qu'il s'agit d'autre chose, et que l'on n'a pas affaire à une organisation pyramidale, mais à une sorte de nébuleuse. Et Xavier Hofer utilise une formule qui est très explicite. Il dit, contrairement aux organisations terroristes classiques, qui fonctionnent ou qui sont organisées sous une forme mécanique, avec ce nouveau terrorisme particulier, on n'a pas affaire à une formule mécanique, mais on a eu affaire à un phénomène biologique. Exemple, une automobile, lorsqu'elle est détraquée, lorsqu'elle est en panne, ne se répare pas seule, alors qu'une plaie, elle, se cicatrise seule. Et on a affaire, avec ce nouveau terrorisme, à quelque chose qui est beaucoup plus du domaine biologique et qui est beaucoup plus du domaine de la plaie, c'est-à-dire qui est capable de se réparer seul ou de se soigner seul et de réapparaître. Pourquoi ? Eh bien, parce que le phénomène en question est différent, très différent, des organisations créées par une tête qui peu à peu se développe et qui peu à peu met en place des structures organisationnelles.
Dominique, merci. Troisième question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre en quelques minutes. Assiste-t-on au début d'une guerre de l'islam contre l'Occident ou bien assistons-nous à autre chose ?
Je ne répondrai pas complètement, mais je donnerai des éclairages. Et cette fois, je vais m'appuyer sur un autre article de ce numéro 9 de la Nouvelle Revue d'Histoire. C'est un article d'Emeric Choprade qui oppose ce qu'il appelle la tradition de l'islam au modèle occidental moderne. Et il fait comme première observation, pour résumer, l'observation suivante, c'est que l'islamisme révolutionnaire ou terroriste, celui qui existait antérieurement, bien sûr, au 11 septembre, que l'on voit apparaître sous ses formes nouvelles lors de la révolution communiste en Iran en 1979, avec ensuite toutes sortes de développements. Cet islamisme, en réalité, n'est pas un phénomène neuf, c'est-à-dire qu'il s'enracine dans une très ancienne tradition. Il n'a rien de comparable à ce que sont les mouvements révolutionnaires classiques de type européen que nous avons connus abondamment tout au long du XXe siècle, entre autres. Ou même à des mouvements, au mouvement de la décolonisation qui procédait dans leur conception du modèle européen. Là, nous avons affaire à autre chose. Nous avons affaire à une vaste nébuleuse, un immense mouvement qui plonge dans une tradition très ancienne, qui est la tradition de l'islam. Pour faire bref et pour beaucoup simplifier. L'islam, d'abord, a comme première particularité, bien entendu, d'être une religion. Religion à vocation universelle. Religion messianique, qui a comme ambition de convertir la totalité de l'humanité. Cette religion a toujours eu des visées territoriales. Visées territoriales qui se manifestent dans sa propre vision des choses. Il y a la terre de l'islam, Dar al-Islam, c'est-à-dire les parties de territoire qui sont converties et qui sont soumises à la loi de l'islam, et les autres territoires qui sont à conquérir, qui sont les territoires de la guerre. Et cette interprétation est fondamentale parce que pour tout musulman, le monde de l'islam, Dar al-Islam, les territoires qui sont soumis à l'islam doivent être soumis à la loi de l'islam qui est une loi religieuse. Cette loi religieuse, dans la tradition de l'islam, est toujours supérieure à la loi politique. La légitimité politique est toujours inférieure à la légitimité religieuse, ce qui a des conséquences pratiques très importante, car tout pouvoir politique au sein de l'islam est toujours suspect d'être en état de déviation par rapport à la loi religieuse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, tout au long de l'histoire de l'islam, depuis 15 siècles, des révoltes, des actions violentes ont constamment frappé les titulaires du pouvoir politique. Aujourd'hui, ce phénomène ne fait que s'amplifier, puisque les dirigeants politiques dans les pays d'islam peuvent avoir la tentation de s'occidentaliser, de se, entre guillemets, moderniser, donc d'être en état de déviation par rapport à la loi fondamentale de l'islam. Et ce sont eux qui sont les premiers visés par l'islamisme. Avant que l'islamisme ne vise l'Occident, les Américains ou d'autres, ceux qui sont visés en priorité, ce sont les modérés de l'islam. Non seulement les modérés de l'islam en terre d'islam, mais ailleurs. C'est une appréciation qu'il faut conserver à l'esprit, parce qu'elle nous concerne, nous, directement, en raison d'une présence musulmane fort importante sur nos territoires. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour d'autres pays européens. Les espérances qui sont placées de la part des pouvoirs politiques, par exemple, dans un islam modéré, occidental, laïque ou je ne sais quoi, sont à revoir avec attention à travers cette constante de la tradition de l'islam qui refuse en priorité cette, entre guillemets, modernisation de l'islam, qui refuse un islam modéré. C'est l'une des appréciations dont il faut tenir compte. Quant au reste, eh bien, nos auditeurs peuvent se reporter à l'ensemble de l'étude sur le nouveau terrorisme et ses énigmes dans le numéro actuel de la Nouvelle Revue d'Histoire.
Oui, nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de ce numéro 9 que l'on trouve chez tous les distributeurs, dans tous les marchands de journaux,
oui, bien sûr.
Consacré au terrorisme. Dominique Vénère, merci infiniment. Et nous allons maintenant passer au troisième point de l'émission avec le général Bach. Bonsoir mon général.
Bonsoir.
Alors, je vais vous présenter très rapidement et ensuite je vais passer la parole à Philippe Conrad parce que je vais vous faire un aveu, mon général. Je rentre, comme vous avez pu le comprendre, d'Afrique orientale et je n'ai pas lu votre livre et je n'ai pas préparé cette partie de l'émission puisque je débarque. Et Philippe va pouvoir, bien entendu, traiter ce point. Alors, mon général, vous êtes Saint-Cyrien, promotion colonel Drian,
oui.
1966. Vous êtes un parachutiste.
Oui.
Vous étiez. Avez-vous commandé le premier CP?
Non, je n'ai pas commandé. J'étais directeur de bureau opération.
D'accord. Vous avez servi au sein du premier CP dans la FINUL, au Liban.
Oui.
Vous êtes breveté de l'école supérieure de guerre. Vous y avez dirigé un cours d'histoire.
Oui,
c'est exact.
Un cours d'histoire.
Et vous avez commandé pendant 3 ans, de 1997 à 2000, le service historique de l'armée de terre du château de Vincennes. Magnifique maison, grande maison. J'y ai un peu travaillé il y a longtemps quand je travaillais sur l'armée française en Louisiane au XVIIIe siècle.
Ah, oui.
Et belle maison. Et mon général, vous venez de publier un livre tout à fait important sur la justice militaire durant la Première Guerre mondiale. Et ce livre porte un titre qui est tout à fait parlant, Général André Bach, fusillé pour l'exemple, 1914-1915. Alors Philippe Conrad, je vais vous laisser le soin d'interroger le général à propos de ce livre, à propos des thèses que développe ce livre.
Oui, ben, bonsoir mon général. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici puisque j'ai eu l'occasion de vous connaître il y a une douzaine d'années parce que j'ai eu la chance de vous avoir comme instructeur. Et j'avais déjà remarqué à l'époque l'historien persé sous le militaire. Et j'ai pu vérifier à la lecture de votre livre qu'il y avait là une vocation des plus positives car vous renouvelez largement la vision que nous pouvions avoir de la Première Guerre mondiale. Un petit peu dans l'esprit en suivant les traces de Guy Pedroncini qui, il y a une trentaine d'années, avait revu de manière magistrale la question des mutineries de 1917 quand s'étaient ouvertes les archives à partir de 67. Alors vous avez vous montré dans ce livre la réalité de ce que fut la répression des actes d'indiscipline ou de rébellion en 14-15. C'était un domaine jusque-là un petit peu inexploré, une terra incognita, et avec le travail d'enquête absolument phénoménal qui a pu être réalisé sous vos ordres à Vincennes, et bien vous nous amenez un livre tout à fait innovant, qui dépasse largement d'ailleurs cette seule question, puisqu'il nous propose une vision assez globale de ce que furent les débuts de la guerre mondiale, de la guerre de 14, avec, vous tordez le cou, à un certain nombre d'idées reçues sur ces questions, en dehors du simple problème des fusillés. Alors c'est un problème important tout cela, parce que depuis quelque temps, et on s'en est rendu compte à propos de la commémoration du 11 novembre, la lecture qui nous est faite de la Première Guerre mondiale est quelque peu partielle, sinon parfois partiale. On a tendance effectivement à valoriser certains épisodes qu'il est tout à fait légitime d'étudier d'ailleurs, mais il faudrait pas évidemment réduire cette guerre mondiale aux mutineries, aux fusillés pour l'exemple, aux fraternisations supposées des tranchées franco-allemandes. Je crois qu'il est utile pour nos générations qui montent d'avoir une réflexion beaucoup plus complète, beaucoup plus approfondie sur la guerre. Et cela commence par une approche scientifique complète, par une vérité sur cette guerre mondiale, et votre ouvrage contribue largement à l'établir. J'en profite une seconde simplement pour signaler également l'apparition du livre de Léon Schirman, Mensonges et désinformations à propos du déclenchement de la guerre à l'été 14, sous titre Comment on vante une guerre, que je recommande à nos lecteurs, aux éditions italique, à nos auditeurs, pardon, aux éditions italiques, parce que c'est une révision très complète des conditions dans lesquelles notamment le gouvernement français a géré en quelque sorte la déclaration de guerre à l'été 14. Mais revenons-en aux fusillés pour l'exemple de 1914-1915, et avant d'en venir à cette question précise, pourriez-vous nous dire, car il y a des pages très éclairantes dans votre livre à ce sujet, ce qu'était l'état d'esprit des Français à l'été de 1914, parce que on a balancé en quelque sorte entre deux points de vue. D'un côté, la guerre fraîche et joyeuse, tout le monde partant en chantant vers la gare de l'Est. D'un autre côté, les Français accablés de partir dans la perspective de la boucherie, désolés de quitter leur famille. Alors, d'après vos recherches et d'après ce que vous avez pu vérifier, quelle était la dominante dans l'opinion française quand la guerre se déclare à l'été 14?
Oui, je crois que de ce côté-là, évidemment, nous sommes marqué par ces départs la fleur au fusil qui sont une réalité. Bon, je dirais que d'une certaine manière, ce départ la fleur au fusil est aussi une petite partie de propagande. C'est-à-dire, comment voulez-vous que des troupes qui partent avec des musiques devant elles directement là, bon, on ne peut que sourire. Depuis 1912, il y avait les retraites au flambeau, c'était très populaire, donc que le réflexe normal derrière une musique militaire, c'est de voir toute la population qui suivait. C'était vraiment l'événement en permanence. Et donc, ça a été un peu hypertrophié, c'est-à-dire que toute troupe qui part encadrée avec des armes, après avoir bien bon coup d'ailleurs, jusqu'à la gare avec immédiatement les musiques qui à l'époque étaient énormes, ces musiques, ça, il faut voir ce que ça donnait comme ambiance dans Paris, donc il y avait c'était cet exa, donc ces images que nous avons vues de troupes partant vers les trains directement, là ça existe. Alors, dans la réalité, bien, quand on regarde un peu les textes, on a un peu tout. D'abord, on a des gens, ce qui est assez surprenant, qui, après tout, y ont été par curiosité. Je cite quelques exemples. Je vois, par exemple, Louis Larcher, un jeune. Il est envoyé comme commis ouvrier, c'est-à-dire à l'intendance, c'était très bien. Maintenant, il demande d'aller au front. Il va terminer lieutenant, il va faire toute la guerre, il fera tout. Mais donc, il y a des gens qui eux-mêmes ont été voir. Ou un autre qui s'appelait Krevic. Lui, c'est un aide infirmier. Bon, on le met à l'arrière. Non, il demande à aller parce qu'il va aller voir. C'est une réalité. Ensuite, il y a eu aussi, vous savez, toutes ces idées bergsoniennes qui ont marqué un peu une partie de la jeunesse, l'élan vital, ce refus du rationalisme. On retrouve des gens qui sont partis comme ça. Et puis, la grande partie, quand même, a été éduquée par l'éducation nationale, par l'instruction publique, et donc, avec l'idée que la République s'est bâtie sur le refus du déni de justice de l'Alsace-Lorraine. Et ça a fonctionné, ça c'est net, on le voit très bien dans les lettres, ceux qui ont été à l'école le savent qu'effectivement, ils considèrent que c'est une guerre juste. Ça, c'est évident que dans toutes les lettres de départ, ils vont pour une guerre juste, les Allemands attaquent, et il faut récupérer l'Alsace-Lorraine. Même ceux qui répugnent toujours, notamment de la classe éclairée, ceux qui ne sont pas officiers de réserve, mais qui ont voulu rester deuxième classe, qui sont pourtant des gens en bon niveau, ils n'aiment pas le service militaire, ils n'aiment pas la promiscuité, mais enfin, ils reconnaissent que sur ce côté-là, il faut qu'ils y aillent. Donc, le début de la guerre est un début où, franchement, je trouve pas de gens qui attaquent le système. Donc, d'une manière ou de l'autre, on voit des réservistes sans encadrement qui arrivent à Soissons et qui défilent, et qui s'arrêtent, qui baissent leur chapeau en s'arrêtant devant le monument de 70, quoi, très spontanément. Et donc, les gens arrivent en chantant, et c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Ceci étant, là aussi, dans les trains, certains réfléchissent un peu, ils ont l'angoisse de la mort, c'est évident, et donc on en voit qu'ils s'inquiètent un peu. Et en même temps, il y a quand même une surconsommation d'alcool. Ça s'est manifeste, ça s'est traduit par... Donc ça joue quand même dans l'ambiance. Alors, il n'y a pas de refus. Bon, on cite le cas de Havre, par exemple, il y a eu quand même des émeutes qui sont lancées quoi, contre la guerre et contre la cherté. Bon, mais c'est assez rare quand même. Alors évidemment, il y a le problème de la campagne. Il faut voir que dans les campagnes, quand même, ça tombe au même moment. C'est le moment où on a besoin des bras. Alors évidemment, tous les gens, à l'époque, l'agriculture, c'est pas mécanisé. Donc et là, brutalement, d'un seul coup, on absorbe la grande majorité de la population. Car il faut savoir qu'en France, on mobilise jusqu'à 48 ans. C'est-à-dire, c'est toute la partie active qui disparaît. Et donc, dans les campagnes, ça fait un vide énorme. Il n'y a plus de palefrenier, il n'y a plus rien. On peut plus, d'autant plus qu'à ce moment-là, l'autorité militaire interdit le téléphone, interdit le télégraphe. Et donc, c'est un pays qui ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe. Et en revanche, les trains partent comme des mécaniques qui envoient vers le front, parce que la concentration s'est faite d'une manière remarquable, mais c'est des milliers de trains qui sont uniquement réservés ce côté militaire. Donc il n'y a plus d'accès possible. Ce qui crée d'ailleurs des phénomènes presque de panique à Paris, car on retrouve le phénomène de 70, les gens envoient tout le monde à la campagne. Donc ce qui prouve que 70 est encore marqué, et là on essaie de trouver des trains, et les familles évacuent les enfants. Il faut dire aussi que c'est pas un départ, les gens se rendent compte qu'ils risquent d'arriver comme la commune, enfin... On est encore, et Paris a essayé de se vider à ce moment-là. Mais autrement, à Paris, il n'y a plus une auto, parce qu'il n'y a plus de conducteur. Et je vois Gérald Brugère, qui a été généralissime, et qui connaît encore du monde directement, pour aller à la gare, il n'y a plus personne, il n'y a plus de voiture. À la fin, il va faire du stop avec un ménage italien qui va l'amener, mais il n'y a plus rien. Donc il faut savoir qu'il y a une chape de plomb, la France s'est arrêtée à ce moment-là. Et donc, voilà à peu près, donc ouais. Il faut voir ces deux aspects. Donc, en même temps, et grande inconnue, parce qu'après, pendant 15 jours, on ne sait plus ce qui se passe.
Et alors à ce moment-là, au moment où se déclenche la guerre, que peut-on dire rapidement du commandement dans les deux camps et des deux stratégies qui ont été imaginées de part et d'autre? Car évidemment ensuite, on a exalté le génie évidemment du père Joffre à la suite du miracle de la Marne, mais il faut bien revenir un peu sur les événements du mois d'août et du début septembre, et il faut bien constater que la fameuse bataille des frontières, le fameux plan 17, ça s'est pas franchement bien passé.
Oui, c'est très difficile, je vais essayer de résumer, parce que c'est très compliqué, il faut aller assez loin. Bon, c'est vrai que je dirais d'une certaine manière, on a eu la chance de pas se faire battre à ce moment-là. Pourquoi? Simplement parce qu'on a quand même deux corps d'officiers au niveau le plus élevé qui sont différents, c'est manifeste. Si vous voulez, l'armée allemande, elle est née du traumatisme de 1806, elle est née du fait que des Allemands sont aperçus qu'en l'espace d'une bataille napoléonienne, on peut broyer un État et le transformer. Et depuis Clausewitz et tout, ils se sont mis à réfléchir à peu près sur le fait que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver de l'autre côté. Et donc le système militaire allemand est devenu très agressif en ce sens de se dire, il doit être possible, puisque nous l'avons vécu et nous l'avons subi, par le biais de l'effort militaire, de transformer jusqu'au point d'assurer la suggestion d'un pays adverse. Et on arrive jusqu'à Schlieffen, Canet, enfin c'est cette idée que on peut par l'effort, par le déclenchement de la violence déchaînée mais bien organisée, arriver à briser non seulement une armée mais briser les structures d'un État et en finir définitivement avec le pays qui les avait agressés, qui est la France. Et ça, si vous voulez, bon, ce travail-là, avec des difficultés, a été maintenu, a été développé après 1870. Il est sûr que le système allemand qui prend les meilleurs, qui les trie en permanence, qui les fait travailler sous un chef d'état-major, du grand état-major général, qui lui ne dépend que de l'empereur, et qui donc a la durée pour lui, qui peut rester comme Schlieffen 14 ans en place, et qui monte un plan comme ça, il n'y a rien de ça en France. En France, Nous avons vécu pendant cette période-là toutes les régimes qui ont changé, et la Troisième République est toujours en méfiance par rapport à son corps militaire. Bon, alors c'est évident qu'il y a une méfiance totale, donc il n'est pas question d'assurer la continuité à un enseignement militaire puissant. Il s'agit simplement de ne pas craindre un coup d'État manigancé par des... qui, à mon avis, une fantaisie. Je suis en train d'écrire un livre qui montre que c'est un fantasme. C'est un fantasme total. Et là, donc, de ce fait-là, il n'y a aucune possibilité de continuité. Et il faut même dire que, même sociologiquement, j'agratigne un peu la corporation, à l'époque, on considère qu'un ministre de la guerre, il doit être général, et un ministre de la guerre général, il ne peut pas avoir un chef d'état-major à côté qui risque de prendre du pouvoir. Alors que lui, et politiquement, il change tous les ans. Donc, il y a une espèce de jeu d'administration centrale qui a empêché en France qu'on crée un véritable état-major général. Alors, avec tout ça, il y a l'expansion coloniale, les gens s'habituent ailleurs, mais honnêtement, moi-même, ayant été professeur à l'école de guerre, je reconnais que quand je regarde ce qui se fait en Allemagne et quand on est effrayé par la rigueur conceptuelle des concepts clausewitziens ou de Freytag, Loring, Godwin, enfin, il y en a d'autres derrière. C'est vraiment des gens extrêmement puissants et qui ont conçu vraiment une façon de commander, ce qu'on appelle la Auftragstaktik, je vais pas rentrer les détails, c'est vraiment très puissant.
Et puis, il faut dire aussi qu'en France, on n'a pas forcément sélectionné les meilleurs. Dans les années qui ont précédé la guerre de 14, il y a eu quelques épisodes qu'on connaît bien, du style de l'affaire des fiches. On connaît certains chefs militaires de l'époque qui auraient dû partir en retraite en 14 et qui ont montré par la suite un certain nombre de qualités. Notre système n'assurait pas forcément la promotion de ceux qui seraient les meilleurs en cas de conflit.
Oui, c'était devenu très difficile parce qu'avec l'histoire de Dreyfus plus les fiches, effectivement, il y a une espèce de fantasme, de crainte, et je dirais même dans l'institution, bien sûr, certains ont réussi à monter par ce biais-là, que par le biais politique, c'est tout à fait net, et Joffre en est un cas. Bon, ouais. C'est un cas de ce genre-là. Lui-même n'a aucune année d'enseignement militaire à se reprocher, au moins de ce côté-là, il est libre de problèmes comme ça. Bon, il a eu une grande partie de sa carrière à Outre-mer. Bon, en France, il a été directeur du génie, il connaît très bien le système-là. Et en 1911, il a réussi, par sa bonhomie et tout, et son habitude, quoi, finalement, à plaire, disons, à la classe politique de l'époque. Mm-hmm. Et en dépit du fait qu'il est, je dirais, vierge de tout raisonnement tactique ou stratégique, donc, on l'a mis en place parce que il est sûr politiquement, premier temps, et il semble quand même d'avoir une certaine autorité naturelle qui devrait lui permettre là, de s'arranger. Alors, on lui met à l'époque Castelnau, qui est prétendu, dont on pense qu'il a quelques lumières stratégiques à côté de lui, mais enfin, il est en deuxième truc. Il est sûr de mettre Castelnau en premier.
Et Castelnau qu'on ne peut mettre en premier parce que c'est le capucin botté que dénonce Clémenceau. Mais en ce qui concerne Joffre, justement, et puis pour ce qu'on évoquait, la bataille des frontières, il faut bien reconnaître qu'il y a un problème Joffre, c'est que le général en chef, finalement, va reporter les échecs des débuts de la guerre sur ses subordonnés, et ça va rejoindre un petit peu le sujet de votre livre, dans la mesure où, d'une part, ça aura comme conséquence ce qu'on a appelé, ce que le colonel Rocol appelait l'hécatombe des généraux, c'est-à-dire on va épurer massivement le commandement en disant ils ont été incapables, ils ont été mauvais, etc. Et dans certains cas, c'est proprement scandaleux. Je pense au cas Lanrzac, par exemple. Lanrzac a sauvé, finalement, la 5e armée en retraitant, et on va ensuite l'écarter pour mettre trancher les prêts, qui étaient un bon, d'ailleurs, à la place. Donc, finalement, c'est pas trop grave. Et puis, également, à un autre niveau, alors, si on a subi des échecs, si on perd des combats, c'est parce que la troupe est lâche, c'est parce que la troupe se débande, etc. Et on va avoir, c'est un petit peu le pendant pour la troupe de l'hécatombe des généraux pour les cadres, on va avoir dès 1914, dès septembre-octobre, une justice de conseil de guerre dont on peut dire qu'elle a été quelque peu expéditive, mais dans un contexte et dans des conditions, il faut évidemment le voir, qui sont des conditions totalement exceptionnelles.
Tout à fait. Le problème c'est un problème qu'on peut comprendre. Et bon, il faut se mettre aussi un peu à la place de Joffre. Donc, il est mis en place en 1911. Il y a des menaces, Agadir et tout le reste. Bon, enfin, il n'y a pas la guerre. Et là, en 14, la guerre démarre. Donc, c'est à lui à gagner la guerre. Alors, pour la gagner, il faut savoir qu'il est en position relativement pas très agréable par rapport au grand chef allemand. C'est que tous ses pairs, finalement, n'ont pas confiance en lui. Lanrzac n'a pas confiance en lui, Castelnau non plus. Donc, ce sont les chefs d'armée qui eux-mêmes donc le considèrent d'une manière un peu hautaine, quoi. Puis ils sont prêts à discuter ses ordres, donc ce qui est assez difficile. Et donc Joffre finalement va prendre la position de la fuite en avant, puisqu'il ne peut pas peser sur les généraux dont on pense qu'ils sont au niveau capable de mener des armées. Il va faire alliance avec, il saute une génération, il fait une alliance avec des colonels, ce qu'on appelle les jeunes turcs. C'est-à-dire qu'il va promouvoir dans ces années-là à toute vitesse des colonels généraux, et donc en particulier le colonel Berthelot, qui devient général très vite. Et cette équipe-là, que l'on appelait les jeunes turcs, donc vont travailler auprès de lui. C'est-à-dire, c'est eux qui travaillent et lui qui couvre. Donc il est là pour donner les ordres, mais en revanche, il n'écrit rien du tout. Hein. Vous pouvez chercher un écrit de lui, il n'y en a pas. C'est donc cette équipe-là. Et là, c'est assez très dangereux, parce que cette équipe amenée par le Grand Maison et toutes ces équipes-là partent d'un système assez dangereux. C'est de dire d'abord que la France est foutue, en gros, disons, qu'elle n'a plus ce qu'il faut, et que donc, il faut que la troupe, on la lance en masse, avec une offensive puissante. Et surtout, il va falloir surveiller les généraux, qui sont des vieux et qui sont des politiciens. Parce que ça, on le trouve dans les textes. Et les raisonnements de Grand Maison, c'est de se dire, attention, vous, les chefs d'état-major qui êtes de notre âge, surveillez vos chefs. Et surtout, s'il le faut, à la limite, vous prendrez le pouvoir. En disant, ils sont 65 ans, ils valent rien. Et on le voit dans l'affaire Lanzac, où effectivement, quand Lanzac décide de retraiter parce qu'il a raison de le faire, il est apostrophé par le capitaine Girard, qui est son chef du deuxième bureau, qui le traite de lâche. Donc il faut voir que donc des gens qui sont soit entrés ou placés, à ce moment-là, se font attaquer par des capitaines. Et là, c'est une espèce d'idéologie qui s'est fabriquée à l'époque chez ces gens-là, que Joffre couvre. Et donc, pratiquement, Joffre signe les papiers, fait par cela. Et donc, toute la folle offensive sur les Ardennes et tout, c'est du travail du général Berthelot en réalité, mais il n'a fait que couvrir. Et donc, dans le livre, je ne peux pas entrer dans le détail, mais je montre effectivement tout le côté, ce côté rêverie d'aéroplane, tel que disait Castelnau quand il parlait des conceptions de Berthelot. Mais tous ces généraux ont été extrêmement méfiants par rapport à ce qui sortait, parce qu'ils savaient que ce n'était pas Joffre qui l'avait écrit, et de toute façon, ils sont partis au combat sans directive.
C'est ça, parce qu'ils étaient très peu informés en fait des intentions du commandement, ce qui était quand même un petit peu embêtant au niveau de généraux d'armée. Et alors dans ce contexte-là, donc on va avoir les difficultés que l'on sait avec la bataille des frontières, des phénomènes de panique, la retraite, et se produisent donc les premières interventions des conseils de guerre. Alors quelles étaient les références en termes de judiciaire, quels étaient les textes en la loi de l'état de siège de 1849, le code de justice militaire de 57. Il y avait le souvenir également de l'époque de la Révolution, à l'époque où on guillotinait les généraux qui perdaient les batailles, hein, Confert, Houchard. Et tout cela, finalement, a fait une espèce de cocktail bien particulier qui aboutit sur, encore une fois, une justice des plus expéditives, dans laquelle il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel, une justice finalement assez sommaire.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, bon, là aussi, je crois que c'est un peu la partie la plus neuve. J'ai mis du temps à comprendre un peu les ressorts de cette justice militaire, mais il faut voir que en France, il y a eu un dialogue constant entre l'institution politique et la justice militaire depuis la Révolution. Au moment de la Révolution, donc très tôt, la Révolution s'est mise à faire la guerre, et donc dès 1791, on a réfléchi un peu à ce modèle où il fallait défendre contre les tyrans. Et donc, le modèle a été cherché dans la République romaine. Et donc, la République romaine, avec la vertu, donc ces idées qui ont été mises en place par la Montagne en 1793. Et donc, une époque où donc on pense que la République doit être inflexible envers ceux qui ne respectent pas. Et donc, on admet qu'il y a des faiblesses humaines, et il faut effectivement être très dur. Et donc, il y a toute l'hystériographie de l'époque où on essaie d'exalter les modèles romains, où on exécute même le propre fils directement, parce que... Et donc, cette espèce de... Le mot cour martial, ça vient de Mars, et donc, les législateurs se sont mis à travailler, à étudier vraiment le système romain. Et donc, c'est une guerre, donc, en même temps, la Révolution, en 1793, c'est une guerre totalisante. Et donc, il s'agit de bien expliquer que c'est le pouvoir politique qui dirige tout cela, et bon, et on peut prendre toutes les mesures pour arriver à briser les résistances en face. Donc, c'était très moderne à l'époque. Mais cette justice, donc, est partie de là. Ensuite, il fallait pouvoir... on admettait que c'était des masses qui se lançaient à l'assaut. Elles étaient mal encadrées. Bon, il y avait quand même des risques d'avoir des déboires. Et bien, dans ces cas-là, on frappe durement. Quand il n'y a pas de cadre pour encadrer la troupe, eh bien, il faut faire des exemples. Donc, l'idée, déjà, de ce moment-là, de savoir que dans les pillages et autres qui pouvaient arriver... Et ben dans ces cas-là, on exécute. Donc il y a toute une culture de 1793 qui va perdurer, qu'on va retrouver en 1870. Et donc, en plus, c'est une justice révolutionnaire. Il fallait régler le problème des chouans et tout directement là. Donc c'est une justice où on prend des gens, on les exécute avec deux personnes. Donc ça, c'est très fort. C'est au départ de la justice militaire, il y a effectivement en permanence la référence à cela. Alors, en plus, après, il y a la période napoléonienne. La période napoléonienne, ces idées existaient. Et à partir du moment où Napoléon a commencé à perdre, il est évident qu'il a eu besoin de mesures répressives. Et donc il a utilisé et durci, évidemment, et les dernières années de l'Empire, on exécute les réfractaires, mais aussi on exécute partout. J'ai des tas de textes qui montrent que ça se fait. Donc, notamment, il a lancé l'idée qu'un officier ne peut pas se rendre. Si on se rend, on l'exécute. Après les affaires de Baylan et compagnie, et on va le retrouver en 14, ce phénomène-là, avec justement les références napoléoniennes. Donc tout ça a amené, je dirais, si on va un peu plus loin, lorsque avec la Restauration, on a fait une première refondation radicale. Il s'agissait de couper l'armée et l'aspect révolutionnaire et d'en faire une armée de maintien de l'ordre. Enfin, ça a été l'idée que les Alliés voulaient qu'on fasse, et puis ensuite, en même temps, c'est ce que voulait la Restauration. Donc à partir du moment où on a fonctionnalisé l'armée, je passe là-dessus par des lois directement pour les arranger. Et en même temps, ça arrangeait bien, puisque pour une armée de maintien de l'ordre, il fallait une discipline stricte qui évite l'état d'âme et qui fasse que tout soldat obéisse exactement, strictement. Et tous nos grands règlements, discipline générale sur l'obéissance immédiate et douce, c'est ce moment-là. Donc c'est sous la Restauration qu'on a encore durci le système. Personne ne doit bouger, tout le monde doit exécuter. Alors on vit avec ce système-là. Et alors l'événement suivant, c'est dit la guerre de 1870. Parce qu'en 1870, alors entre-temps, le problème, c'est qu'il y a eu la grande peur de 1848. En 1848, donc juin 48, l'armée rétablit l'ordre. Il y a 6 généraux tués, 1000 soldats tués. Donc il faut rappeler ce qui a été à Paris. Bon, c'est pas des CRS qui donnent quelques coups. Et donc la République a eu tellement peur qu'elle a créé ce qu'on appelle la loi du 9 août 1849, la loi sur l'état de siège. Première loi votée par le premier suffrage universel, qui donne au moment où c'est décidé. Tout le pouvoir est donné à l'armée. Si vous voulez, quand vous lisez directement, c'est l'état de siège, c'est tous les pouvoirs. Et donc, c'était surtout une façon très facile pour assurer les répressions par la justice militaire. Donc après, en 1849, et sous Napoléon III, ça va servir en 1852, c'est le bon moyen pour prendre des dizaines et dizaines de gens et puis les envoyer en Algérie ou ailleurs, ainsi de suite. Donc, ce que je dis là-dedans, c'est que la justice militaire a été un outil fabriqué par des juristes civils de manière à finalement défausser le pouvoir politique, je dis directement, des problèmes délicats lorsqu'il y avait effectivement un gros maintien de l'ordre à faire en France. Alors, et c'est ça, ça aboutit à un code qui s'appelle le code 1857, qui a été initié par 1849, mais qui est arrivé en 1857, des longs papiers. Mais ce code-là n'a pas pu servir parce qu'il était vraiment prévu pour le temps de paix en étant à l'abri. Mais pendant la guerre 1870, ça n'a pas été possible, puisque là, les troupes ont bougé directement là. Et on s'est aperçu que ce code qui était très, 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 très procédurier, qui était calqué sur le code pénal avec des justices d'exception, ce code-là, donc, finalement, n'a pas pu servir. N'a pas pu servir parce que les troupes allaient à droite, à gauche. Et lorsque, à l'automne 70, la République, le gouvernement de défense nationale s'est mis en place, les chefs ont demandé une justice plus expéditive et elle leur a été accordée. Il existe un décret du mois d'octobre 1870, c'est simple, on crée des cours martiales. Cours martiales, c'est donc 3 officiers qui se réunissent et qui décide. Il n'y a même pas besoin de donner des raisons, et on peut exécuter. Et ça a fonctionné comme ça. Et donc, Gambetta a couvert totalement, en disant, j'ai eu des textes de lui, disant, faites passer ces gens en cour martiale et exécutez-les. N'est pas où, exécutez-les, mais et faites-les passer en cour martiale et exécutez. Donc, il n'y a pas... le lien était à peu près garanti déjà au démarrage sur le sort final. Et donc, cette affaire-là a terminé. Alors, il faut savoir que 1870... Il y a eu pas mal d'exécutions. Mais alors vraiment, surtout sur la fin. Mais il n'empêche que tout ça a été gommé parce que après la guerre, bon, il restait l'humiliation et on n'a plus reparlé de ça. Les francs-tireurs, tous ces... Des modèles de 14 ont vraiment existé à ce moment-là. Les exécutions sommaires, les francs-tireurs et avec les représailles très graves des deux côtés ont existé. Mais ça a été gommé par l'esprit de la revanche.
D'accord. Et alors donc tout cet héritage-là va servir donc à partir de septembre-octobre 14 pour une répression vigoureuse au moment où effectivement du fait de la nature des combats on est confronté avec des phénomènes de panique, avec des phénomènes d'indiscipline. Alors quel est le bilan à l'automne 14 de cette politique, de cette répression?
Oui, d'abord il faut montrer ce qui est arrivé réellement, c'est-à-dire que dès le moment où la guerre a démarré, comme d'habitude, s'est mis en place un système qui a été copié sur le système précédent. Donc j'insiste sur le fait que le type de justice qui s'est mis en place en 14 a été fait référence par rapport à 1870, par les politiques. D'habitude, on n'imagine pas, on va toujours chercher avant pour essayer d'expliquer. Donc, qu'est-ce qui se passe dès le début? Dès le 2 août, c'est-à-dire alors qu'on est dans la phase normale, le pouvoir politique déclare l'état de siège. Il faut voir que dès le 2 août, toute autorité est donnée aux politiques de faire ce qu'elle veut en France. Donc, à la limite, il faut voir que Joffre a été un dictateur à ce moment-là. Donc, et ça, il l'a pas demandé. C'est pour ça que j'insiste bien. C'est le politique qui, dès le démarrage, au cas où, sous prétexte qu'il risquait d'y avoir des manifestations contre la guerre et qu'il s'agissait de réprimer directement là, on donne l'outil déjà disponible dès le 2 août. Vous voyez qu'on n'est pas dans une phase. Ensuite, on prévient bien Joffre qui va avoir toute autorité sur les zones des armées. Ensuite, il y a une autre loi qui, enfin, directement, si vous voulez, c'est un bilan, ça avance à toute vitesse, on voit le pouvoir politique se défausser totalement et donner tout le pouvoir aux armées pour le système-là, alors qu'il pourrait très bien le garder. Parce que dans le premier point, l'état de siège est mis en place, c'est un petit terme. L'état de guerre est déclaré après aussi bien sur les côtes bretonnes. Alors, mais si c'est fait simplement, c'est parce que pour donner la possibilité d'utiliser la justice expéditive. Et c'est expliqué par des textes très confidentiels envoyés aux armées, mais pas expliqué politiquement. Mais c'est signé Messimi, et bon.
Messimi, qui est le ministre de la guerre au moment où celle-ci se déclenche.
Je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Alors, si vous voulez, dans ce système-là, très vite, le 10 août, Messimi propose un décret qui fait signer par le président de la République. Il va y avoir le 10 et le 17 août. Je répète bien, une période où il n'y a pas encore de phénomène grave. Qu'est-ce que dit ce décret? Il permet de faire que le pouvoir révision puisse être supprimé. C'est-à-dire que les gens qui vont être jugés au combat n'auront aucune possibilité de faire appel. Mmh. Et c'est dit d'une manière alambiquée. Alors là, il faut lire le livre, parce qu'après, c'est expliqué avec des explications de texte, mais en tout cas, c'est pas expliqué à la population. Mmh. Et on l'explique aux généraux en leur disant, vous avez la possibilité, et dès le 17 août, Messimi explique qu'en définitive, si vraiment il y a besoin, dans le cas de discipline, certes, normalement ils n'ont pas le droit d'exécuter, mais ils peuvent le faire. En disant c'est exceptionnel, bon, au démarrage. On va attendre le 1er septembre, ça va être l'inverse. On va dire ce qui est exceptionnel, c'est de demander le sursis. Mm-hmm. Et ça c'est le politique, c'est le suivant, c'est Mitterrand en réalité qui va le faire. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que très très vite se met en place un système où on annonce, disons, aux autorités militaires, à partir du 1er septembre, là évidemment on est rentré dans la phase où il y avait des combats, normalement, si vous avez décidé que quelqu'un était exécuté, vous l'exécutez. Mm-hmm. Mais le droit de grâce existe en France depuis le temps, et c'est un des rares droits du président de la République, donc il peut ne pas s'en dessaisir, alors que là, par ce décret, mm-hmm. il est dit que seulement, par exception, on peut demander le... Donc c'est l'autorité politique. Et le président de la République dit, j'ai un droit de grâce, mais je vous le délègue. Vous pouvez le garder pour vous. Il faut vraiment que ce soit vraiment exceptionnel pour que vous me préveniez. Donc on est rentré dans une justice de terreur. Puisqu'effectivement, brutalement, on a descendu au niveau d'une autorité déléguée qui est l'autorité militaire, la possibilité de juger dans la journée. Et en définitive, on l'encourage à ne pas demander grâce, parce qu'il mm-hmm. faut que ce soit une exception. Mm-hmm. Et simplement, le compte-rendu, faire un compte-rendu a posteriori. Bon, il faut mm-hmm. prévenir le lendemain que ça s'est fait. Mm-hmm. Donc, voilà, nous sommes en début septembre, un moment où pratiquement un outil a été donné aux militaires, dans une période, certes, qui est la période de la bataille des frontières perdues, mais qui, normalement, doit entraîner fatalement des problèmes, parce que c'est... il n'y a pratiquement plus de verrou, quoi. Mmh. Et il va y en avoir encore entre le 6 septembre, on va lâcher définitivement.
Mmh. Et puis alors avec des approches de la situation qui sont parfois très injustes. Il y a la fameuse affaire du 15e corps qui est engagée en Lorraine avec la 2e armée, là, dans la région de la zone des étangs, etc. Alors on a accablé ce pauvre 15e corps constitué de Marseillais parce que on s'est un peu défaussé sur la troupe en disant ils ont été lâches, ils n'ont pas été à la hauteur, alors qu'il faut bien voir que les conditions de cette offensive étaient particulièrement calamiteuses.
Oui, alors là, c'est un peu douloureux parce que c'est là aussi, on n'a pas tellement bien présenté l'affaire. L'affaire est encore plus, douloureuse ou difficile à comprendre. C'est que, en définitive, il y avait plusieurs corps d'armée, dont notamment ce fameux 20e corps. C'est pour ça que ça pose problème. Le 20e corps commandé par le général Foch, qui était donc un outsider de première... et qui, lui, bon, quoi qu'on dise... n'a pas exécuté ce qu'on lui a dit de faire. C'est-à-dire que il était sur le front nord et le général Castelnau, qui commande la 2e armée, l'a prévenu en lui disant de se mettre en défensive. Il ne l'a pas fait. Alors il reste un vrai problème. Et il a attaqué directement là le matin. Il est tombé sur un corps d'armée bavarois. Bon, il est évident que sa division a éclaté. Et donc c'est parti de là. Il n'empêche que ce qui arrive au gouvernement, c'est le 15e corps qui a lâché. Donc on a déjà un petit problème qui fait qu'on a jeté un peu un voile sur une affaire comme ça en début de guerre, puisqu'effectivement, bon, Foch était quand même quelqu'un qu'il fallait absolument regarder. Mais pour le reste, le 15e corps n'avait pas plus lâché.
Alors, ce qui est sur...
Non, alors ce qui est... c'est là où le côté politique montre aussi, je dirais, que Joffre est peut-être aussi un général politique. Bon, je ne l'attaque pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il a immédiatement envoyé un message disant « Bon, il s'est passé quelque chose à la 2e armée, le front a lâché, le 15e corps n'a pas tenu. »
Il s'est couvert.
Oui, il s'est couvert. Mais en même temps, il a continué en disant « J'y fais fonctionner ferme les conseils de guerre. J'y fais fonctionner ferme les conseils de guerre. » Alors, j'ai été voir si c'était vrai, quoi. Parce que j'ai eu accès aux minutiers, c'est-à-dire aux différentes condamnations. Il n'y a pas eu une seule condamnation qui s'est faite au 15e corps d'armée pendant trois mois. Donc, je dirais, à la limite, c'est le travail de l'historien de décerner, si vous voulez, les déclarations de ce qui se fait vraiment. Et là, il y a, quand on tombe sur les papiers, eh bien, il faut regarder. Oui. J'ai cherché trois fois, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas eu un seul condamné. Donc, vous avez donc un général commandant en chef qui annonce au pouvoir politique qui fait fonctionner ferme les conseils de guerre, et il n'y a pas un seul condamné.
Alors qu'on a beaucoup parlé de ce 15e corps, les gens de Marseille étaient désignés à la vindicte commune, parce que, à propos d'ailleurs de Morange et puis du 20e corps de Foch, il faut aussi rappeler que le dit Foch, c'est lui qui ensuite disait on peut quand même pas donner le bâton de maréchal à Castelnau, le vaincu de Morange, disait-il.
Le dossier n'est pas encore ouvert.
Et alors, finalement, donc, pendant ces mois terrible de septembre, octobre 14. Quel a été le bilan de cette répression militaire?
Oui, donc, il faudrait que je revienne un peu à mes chiffres, parce que je ne veux pas me tromper. Je vais voir là. Si vous voulez, donc... là, en 14, voilà les chiffres brutaux. J'ai trouvé 270 condamnés. Il y a eu quand même 45 recours en grâce. Ce qui est assez étonnant, c'est ce que je découvre, c'est-à-dire que le pouvoir politique dit « on ne veut plus entendre parler de recours en grâce », il empêche que la machine va l'en demander.
Continuellement.
Et il va y avoir, parce que il se trouve des jurés ou des officiers qui n'accepteront pas et qui vont demander quand même de se faire. Donc parce que on parle toujours d'une espèce de système qui est le politique, le militaire, et puis à la base les malheureux qui seront exécutés, mais il y a eu toute la chaîne hiérarchique. Et là-dedans, il y a le livre en site, et j'ai encore trouvé beaucoup. Il est évident que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde d'exécuter, de juger des gens et d'exécuter, des condamnés à mort.
Oui, on voit qu'il y a des réticences dans le corps des officiers.
Fortes,
il y a eu ces ordres-là.
Donc je suis arrivé sur l'année octobre, je vois 162 exécutés français, plus 5 maghrébins, 5 indigènes, non, 167 par exemple pour cette année-là. Et c'est surtout, essentiellement, les mois de septembre et d'octobre.
Mm-hmm.
Hein? Alors ce qu'il faut voir...
Condamné pourquoi?
Alors donc, là, c'est assez difficile à dire. C'est-à-dire que le code de justice militaire, c'est un peu comme le code civil ou en association de malfaiteurs, c'est pratique. Donc, on a utilisé deux ou trois motifs de crime. Le motif principal, c'est l'abandon de poste devant l'ennemi. C'est pratique et ça sert beaucoup. Donc, c'est celui qui a servi à 80%. Donc, mais ça a couvert beaucoup de choses. Parce qu'un phénomène que je décris là-dedans et qui moi-même m'a étonné au démarrage, qui existait dans d'autres guerres, mais on n'en parlait plus, c'est les mutilations volontaires. Très tôt, des soldats se sont mutilés. Je cite les premiers cas, ça se passe du côté de Mulhouse le 15 août, quoi, il y a 10-12 août, où déjà on voit des soldats qui sont tirés une balle dans la main et qui le reconnaissent. Et donc ce phénomène-là va jouer. Et ça va prendre de l'ampleur parce que ça va être constaté par le corps médical. Car petit à petit, les médecins commencent à prévenir en disant « mais on voit arriver des gens qui ont quand même des blessures suspectes à la main gauche ou pied gauche, c'est toujours des doigts qui ont sauté ». Et c'est un des problèmes, je dirais, un peu douloureux, parce que là, le commandement va réagir immédiatement, il alerte le politique, et là aussi, Mihorand dit, utiliser le code, et utiliser par extension l'abandon de poste devant l'ennemi. Considérer que quelqu'un qui se mutile, donc, c'est quelqu'un qui, avec préméditation, a calculé certes, veut partir du front. Donc c'est encore pire que le reste, donc c'est la mort. Parce que le abandon de poste devant l'ennemi dans le code, c'est la mort. Et donc on va traquer les gens qui arrivent avec des blessures suspectes. Et donc, au début de guerre, un certain nombre de ceux qui sont exécutés le sont pour mutilation volontaire. Mais le terme, c'est abandon de poste. Et c'est un phénomène très important qui va durer. Et c'est la partie la plus limite. C'est la partie la plus limite car ce type de justice est une justice de flagrant délit. Bon, il est évident que le refus d'obéissance est clair. Oui, non, bon. Il a refusé d'obéir. Mais la mutilation volontaire, comme je l'explique, se fait toujours sans témoin. A priori, celui qui le fait ne va pas s'inventer. Donc, il y a toujours une petite enquête. et on n'a personne pour dire, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on va demander aux médecins de faire ça. C'est, d'une certaine manière, c'est, de nos jours, ça surprend un peu, c'est le corps médical qui est devenu l'expert. Et donc, quand un médecin écrit présomption de mutilation volontaire, que l'individu ne passe même pas devant le jugement, mais il y a trois jurés, trois officiers, qui n'ont à lire que ce texte-là, et qui jugent là-dessus. Et comme il n'y a pas d'appel, pas de révision, et que l'exécution peut être faite dans la journée, c'est ce qui arrive. Donc là, on a des preuves dans certains cas. Là, c'est le domaine dans lequel se trouve l'erreur judiciaire. Bon, il faut savoir qu'il y a des bavures dans la justice civile, mais dans une justice qui se fait dans le jour, où il n'y a pas de défenseur et où il y a uniquement un expert qui peut se tromper, et qu'il n'y ait pas eu d'erreur, ça aurait été vraiment étonnant. Et dans ces cas-là, je ne vois pas pourquoi on aurait une justice normale si on arrivait à le faire comme ça. Et donc là, on a en même temps, dans cette frange-là, on a les côtés les plus douloureux. Il y a les affaires Tomasini, Aude, enfin des soldats dont on s'est aperçu après coup qu'en réalité, ils ne s'étaient pas mutilés. Mais entre-temps, ils étaient exécutés, donc ils ont été réhabilités à titre posthume. Ouais. Mais ça, c'est le phénomène de début 14, qui a été quand même qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que tous ces jeunes français, enfin jeunes et moins jeunes, surpris par l'atrocité des combats et puis ce qui s'est passé, car cette bataille des frontières a été abominable, avec des atrocités dès le départ, eh bien certains ont essayé de partir du front en se blessant.
Oui, mais ça touche très peu de monde. Oui, bien sûr. Par rapport aux effectifs, c'est ultra marginal, c'est confidentiel. Oui. On ne peut pas en inférer une perte de morale de l'armée française.
Pas du tout. C'est-à-dire, je pars du principe, comme je le dis sur la fin du livre, que si vous voulez que la justice, enfin, que les fusillés, pour l'exemple, pour moi, c'est un peu une espèce de furoncle à la peau d'une nation. Et je veux dire qu'il faut aller regarder pour ne serait-ce que comprendre combien a été dur ce qu'ont fait les autres qui ont obéi. Hein, parce que ce n'est que quand on voit que certains ont pu fléchir, et bon, on ne peut pas leur jeter la pierre, mais il n'empêche qu'ils ont fléchi. Ça veut dire que les 99% n'ont pas fléchi. Et eux, ce n'est pas la justice militaire qui les a tenus. Il a bien fallu qu'ils tiennent. Donc je dirais qu'aller voir ce côté un peu marginal est un moyen peut-être de toujours sortir du système héroïsme d'Épinal. Oui, ils se sont battus. Non, mais ça a été très dur. Ils ont vu plus d'horreurs que de merveilles, comme dit Johnny Hallyday. Et là-dedans, il y en a certains, bon, moins à l'aise que d'autres, mais très peu nombreux.
Je ne dirais pas certains. Je dirais quelques-uns.
Quelques-uns.
Ah oui, c'est exact. C'est tout à fait marginal.
Tout à fait, mais bon, il faut quand même le voir, parce que se dire qu'un paysan qui se coupe quatre doigts et tout, ça montre qu'il est quand même dans un état de détresse morale complète. Bon, c'est tout. Bon. Et on doit le constater. Mais ceci étant, on peut pas dire qu'ils ont été innocents. Non, ils ont été coupables par rapport à ce qu'on leur demandait de faire. Hein. Ça, c'est évident.
Les unités sont les unités de ces gens qui vont être condamnés sont répertoriées ou ventilées sur l'ensemble de l'armée.
C'est ventilé, c'est-à-dire il faut comprendre que les attaques qui sont faites en Lorraine et puis les attaques qui sont passées dans les Ardennes, donc ont complètement désarticulé les troupes, en particulier les cadres. Et beaucoup d'officiers ont été tués ou blessés. On voit des textes où on demande à telle division, mais enfin, vous n'avez pas reçu les papiers correspondants. Bon, et la réponse du général, c'est que tout mon état-major a été tué. Et c'est eux qui avaient les papiers. Bon, il faut voir que c'est une mortalité énorme. Les 288 000 tués du début, les 350 000 blessés, enfin, il faut imaginer ce qui s'est représenté. Donc c'est toute une troupe qui est choquée, qui recule en se battant, mais dans laquelle, là où il y avait 60 officiers, ils sont plus que 30. Donc ça veut dire que quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font, ils n'en savent rien. Et il y a des troupes qui se débandent. Ça, il faut le savoir. Il s'en est débandé un bon paquet. Et dès ce moment-là, il y a les ordres dans la maréchaussée de rallier les fuyards et de les ramener avec les chevaux. Bon, là, les textes, et les ordres sont très précis parce qu'il y en a qui partent. Ça, c'est évident. Et on les ramène l'arme dans le dos. Hein, ça, il faut le savoir. Mais globalement, ça a tenu. Du côté du nord, notamment de Lille et autres, où on n'avait que des troupes territoriales, bon, bah, elles ont éclaté en vol. Elles ont eu Von Kluck en face, quoi. Alors, on leur a dit, c'est lâche, il fuit. Mirand dit, je veux des exemples. Et comme il les obtient pas, il fait limoger le général Damad parce qu'il n'a pas exécuté des gens. Mais il est évident que c'était des gens de 40, 45 ans dont normalement la tâche prévue était de garder les ports du Havre et tout face à la Grande-Bretagne, tranquille. Et on va les balancer en face des meilleures troupes. Donc, il est évident que, logiquement, ça ne marche pas. Tout ça pour dire que on peut pas parler de l'armée française de début août et de l'armée française de fin août. Fin août, elle est complètement abîmée, les cadres sont partout et on sait plus ce qui se passe. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui pètent les plombs, il y a des suicides, il se passe beaucoup de choses dans ces troupes-là. Même un paysan, il n'est pas habitué à faire des centaines de kilomètres comme ça, sur des grandes distances, avec des combats, des arrêts directement là, les tirs des armes lourdes allemandes. Et puis on a dès le début, comme je le cite, des massacres. Quand les blessés sont massacrés, sont achevés par les Allemands, les gens le voient, ils le font aussi. Donc dès le début, ça a été très dur.
Oui. Alors, que se passe-t-il alors maintenant, parce que le temps tourne, que se passe-t-il en 1915, l'année sanglante? Car là, on pense que la guerre s'est stabilisée, la guerre de tranchées a commencé, on n'est plus dans l'espèce de mouvement de panique de l'automne 14. On pourrait penser que la justice militaire va atténuer quelque peu sa sévérité. Or, en 1915, c'est aussi là qu'on a beaucoup de cas. D'ailleurs, ce que montre très bien votre livre, j'y insiste, c'est que, contrairement à la légende largement répandue, c'est pas du tout 1917 les mutineries que trouve l'essentiel de cette répression. D'ailleurs, la législation avait changé dès 1916, donnant davantage de droits et de garanties aux intéressés. Et c'est surtout en 14-15 que les choses se sont passées. Et alors, en 1915, justement, alors que la guerre s'est stabilisée, on a des cas qui sont connus, le fameux cas de Berceau, l'histoire du pantalon, le cas des caporaux de Souain. Comment se fait-il qu'en 1915, on maintienne encore cette pression, cette répression, alors que bon, les conditions sont un petit peu différentes, puisque la guerre s'est stabilisée?
C'est aussi une question pour moi. Hein. j'ai pas vraiment de réponse, parce que c'est l'année 15, c'est problématique, c'est vrai. C'est-à-dire que, logiquement, effectivement, les positions se sont stabilisées, on devrait pouvoir regarder ça de plus près. Le gouvernement, de toute façon, ne fait rien. Il n'a rien fait en 15 pour adoucir le système. Je dirais même que, d'une certaine manière, c'est vrai, je le dis, parce qu'il faut le savoir, des gens comme Mirand et tout trouvent très bien qu'on maintienne l'état de siège. Et puis, s'il a maintenu l'administration du ministère de la guerre à Bordeaux jusqu'en janvier 15, c'est aussi pour faire comprendre qu'on était une situation exceptionnelle et que donc, comme ça, on pouvait ne pas réunir le Parlement, ce qui était bien pratique, et ce que, sous la Troisième République, chaque fois, les gouvernements en trouvaient un peu pénible. Donc, il y a une espèce de liaison presque, je ne vais pas dire incestueuse, entre le commandement et le pouvoir exécutif pour maintenir un système d'exception. Tout en sachant, et je m'interroge là-dessus, le Parlement, au mois de mars 1915, va entériner comme une loi le décret qui avait permis ce qu'on appelle les conseils de guerre spéciaux. Donc, là, alors que, à mon avis, on aurait pu faire beaucoup plus attention. Alors après, il faut bien faire aussi le procès du système. Les Allemands ne percent pas, nous on perce pas, et on peut pas dire que la méthode Joffre de 15, non, je peux pas la défendre.
Pas vraiment. Le grignotage.
Non. C'est-à-dire que lorsque, après la bataille de la Marne, les troupes françaises ont raccompagné les troupes allemandes, on est venu mourir pratiquement sur des positions préparées par les Allemands qui étaient les points hauts. Donc on a une espèce de bastion, de courtine, sur lesquelles les Allemands se sont installés. Et nous-mêmes, on les a suivis au plus près. Et c'est vrai que, je le dis là-dedans, les textes de Joffre disant « il faut coller au plus près », c'est un peu, enfin, moi je peux pas en tactique justifier ça, c'est au contraire, c'est le meilleur moyen pour avoir un maximum de pertes, de se retrouver toujours comme au plateau de Californie ou, ou du côté de Reims, de 20 mètres en dessous des Allemands et directement sous leur vue. Voilà. Donc on a mis toute une armée pratiquement sous la vue de l'artillerie allemande et elle a vécu durement. Pour moi, donc, un peu une interrogation. Mais bon, il faudrait quand même se remettre dans les mentalités de l'époque. Enfin, moi, on peut pas, avec des explications de nos jours, on ne peut pas justifier cette façon de coller au front qui a amené d'ailleurs des fraternisations, obligatoirement, dès le moment où... Mais ça n'a pas de justification tactique, à mon avis, ce moment-là. Donc...
Mon général, nous avons quelques questions d'auditeurs. Je crois que les questions s'amoncellent sur la table Victoria.
Aïe.
Une auditrice vous demande: que pensez-vous de l'amalgame qui est souvent fait entre les fusillés, pour l'exemple, premièrement les mutins fusillés en 17 dans le Soissonnais, coupables du refus de monter aux premières lignes, et deuxièmement les fusillés, pour l'exemple, mais innocentés, tels ceux de Vingré et de Souin?
Oui, donc... on ne peut pas, pour moi, si vous voulez, le terme fusillé pour l'exemple, les 700 personnes que j'ai trouvées fusillées pour l'exemple sur toute la guerre, donc il faut étudier cas par cas, ce sont des modèles très différents. Donc ce qui est très très net, c'est que en particulier après la guerre, il y a eu plusieurs réhabilitations, et une dernière faite par la Cour spéciale de justice militaire de 34 et 35, où on a réhabilité un certain nombre de soldats, mais pas des soldats de 17. Comme par hasard, c'est toujours 14 et 15, parce que c'est là que on a pu trouver des exemples limites. Mais, si vous voulez, les soldats qui étaient des meneurs en 17, bon, par rapport au système, ils ont été la législation qui était en place a fait que les jurés, qui étaient donc n'ont trouvé aucun motif de cassation. Donc, on n'a pas de gens réhabilités pour 17. On en a pour 14, pour 15. Donc, dès l'entre-deux-guerres, D'autant plus que cette cour spéciale de justice militaire a été faite par des anciens combattants, moitié juristes et moitié anciens combattants, car ils ont considéré que la guerre ne pouvait pas être jugée par des juristes qui étaient à l'arrière. Donc ces gens-là ont jugé et ont repoussé en général les demandes de 17, alors qu'ils ont accepté un certain nombre de 14 et 15, comme ceux de Soins et d'autres, et ceux de Vingré, qui ont été réhabilités. Ils ont été réhabilités officiellement. Donc de nos jours, ces gens-là ont été réhabilités par une cour spéciale de justice militaire. Donc ils sont différents, bien sûr, et beaucoup de choses ont été traitées déjà entre les deux guerres.
Un auditeur demande, pouvez-vous préciser le rôle du général Pétain pour atténuer les rigueurs des cours martiales en 17?
En 17, oui, bon, c'est manifeste. Enfin,
Un autre précise qu'il avait trouvé en arrivant plus de 100 condamnés et qu'il en a une dizaine qui ont été fusillés.
C'est pas exactement ces chiffres-là.
Non, c'est pas les chiffres que j'ai directement.
Plus, hein.
Bon, le général Pétain, faut être à l'aise. Moi, je vous le dis, c'est, à mon avis, en tant que historien militaire, certainement le meilleur général de la guerre de 14. Bon, et il n'a pas fait de faute, contrairement à beaucoup d'autres. C'est quelqu'un de pas très agréable parce qu'il est, c'est un cynique, mais pour sauver la vie des gens, il n'est pas été si mauvais que ça. C'est-à-dire que dès 14, là où il est à Charleroi, il se débrouille bien. Lorsqu'il commande la 6e division, quand il prend le 30e corps d'armée, il faut voir que, moi, quand je regarde ce qu'il écrit, c'est intéressant parce que bon, évidemment, il fait un peu de la propagande. C'est-à-dire, il menace les gens de cour martiale et tout directement là, mais en définitive, il est peu lancé à la propension à la répression. Et donc, tout en étant assez sec dans ce qu'il dit. Lorsqu'on regarde, j'ai regardé dans le détail tout ce qu'il a écrit en 17, bon, devant les mutineries, premier temps, il rappelle que c'est un problème d'ivrognerie qui est grave dans l'armée. Bon, il explique qu'il faut essayer d'arrêter ça parce que ça devient très important. Et puis, bon, il y a son fameux papier sur lequel il dit qu'il faut faire la répression, mais il rappelle que c'est une répression qui se fait sur nos soldats. Et donc, il insiste beaucoup là-dessus. Donc, il est évident que, à mon avis, le peu d'exécutés après les mutineries 17, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas plus de 30, sont liés à la législation, premier temps, et puis au sang-froid du général Pétain.
J'avais entendu dire que Clémenceau avait refusé des condamnations à mort. Qu'en est-il ?
Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que à partir de la loi du 24 avril 1916, le recours en révision a été permis de nouveau. Et donc, le président de la République a été saisi de recours en grâce. Et par extension, lorsqu'il était président du Conseil et ministre de la Guerre, Clémenceau s'en est occupé lui-même. C'est-à-dire que donc, par télégramme, je me rappelle qu'il y a environ une trentaine d'exécutés pour les mutineries de 17, mais il y a eu 550 condamnations à mort. Donc, ce qui prouve que les grâces ont été collectives directement.
On a gracié massivement quand même.
Et Clémenceau l'a fait. Donc, effectivement, on lui proposait, donc on lui demandait simplement, il répondait grâce pour ces gens-là.
Et ces gens sont restés en prison longtemps?
Ouais, alors ça, j'ai pas encore, je travaille dessus parce que c'est très compliqué. Il faut savoir que, effectivement, la grâce, c'est pas l'innocence. Et, ça pouvait être les travaux forcés à perpétuité.
Cayenne.
C'est Cayenne. Certains y ont été. Il y a les travaux publics, c'est ce qui existait pour les armées. Donc, en gros, je dirais que je trouve encore des traces de condamnés de pendant la guerre qui quittent après les amnisties de 1925. Donc certains ont continué jusque-là. Oui, certains arrivent jusqu'à 1931, mais c'est des droits communs. Enfin, c'est des crimes de droits communs. J'ai retrouvé donc ceux qui étaient passés dans les années 25 n'ont plus aucun rapport. Mais c'est vrai que certains ont fait plusieurs années, si vous voulez,
De travaux forcés.
De travaux forcés ou de travaux publics ou de détention. Enfin, là, je développe toutes les différentes, la panoplie qui existait de moyens.
Est-ce que dans l'armée allemande régnaient les mêmes principes d'une cour martiale expéditive à la française? Votre exposé est très passionnant.
Enfin, je sais pas. En tout cas, merci. Non, mais alors du côté allemand, c'est une grande énigme, mais j'ai pas de réponse et je vois pas pourquoi je mettrais en cause les travaux de nos confrères allemands. Tout ce que j'ai lu sur l'Allemagne, c'est que, officiellement, il n'y aurait pas eu plus de 50 exécutés pendant la guerre. Et, des chercheurs allemands l'expliquent en partie sur le fait que, même si c'était un régime, disons, autoritaire, le Parlement là, a eu son œil sur l'affaire et a toujours veillé à ce qu'on appelle la Rechtsstaatlichkeit, enfin les droits d'État fonctionnent pour cette armée. Et ils prennent à témoin Ludendorff qui, à partir de 17-18, tempête contre le fait qu'il ne peut pas faire de répression là-dessus. 50, c'est pas beaucoup quand on sait que la Deuxième Guerre mondiale a dû amener à peu près 50 000 exécutés dans l'armée nationale socialiste. Bon, il y a eu quelque chose entre les deux, mais bon, je suis obligé de m'en tenir à ces travaux-là, et je vois pas pourquoi je les suspecterais. L'armée britannique annonce environ 360 exécutés, on pense environ 700 à 750 exécutés à l'armée italienne. Bon, mais en France, donc autour de 700 pour toute la guerre. Mais les Allemands nous disent 50. Bon, mais moi, j'en reste à ce chiffre.
Quelle était l'opinion du général Gallieni sur son ancien subordonné, qu'était le général Joffre?
Oh, c'est pas très... Ça a été un gros, gros problème, ça. Non, c'est vrai, il s'aimait pas beaucoup. Non, je veux dire que, surtout, ça a été très difficile. Et, parce que en début de guerre, le général donc Messimi, qui se croyait un nouveau Carnot, il faut bien le reconnaître, bon, qui pensait être celui qui allait ouvrir Saint-Just, pensait diriger les affaires, et avait trouvé que c'était bien de mettre Joffre en place, et de mettre comme papabile Gallieni, qui lui-même n'avait pas démérité, loin de là, et qui en plus avait commandé la fameuse armée Larzac avant, donc qui connaissait bien la question. Et là, effectivement, Joffre a tout fait pour l'empêcher. Donc il a refusé de communiquer à Gallieni, et il a refusé même de le voir, de le rencontrer, alors que c'était lui qui devait le remplacer. Ce qui vous explique que c'était pas une grande amitié entre les deux, et donc et tout ça autour de la Marne, bon, toute l'histoire reste à écrire.
Pourriez-vous préciser comment le général de Castelnau a pu être, à un certain moment, le bras droit de Joffre? Ses qualités devaient être éminentes.
Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est un grand personnage, c'était pas possible, si vous voulez, de dans une république laïque telle qu'elle est là, qu'il prenne le poste principal. D'autant plus que je crois qu'à mon avis, il poussait un peu le bouchon un peu loin quand après la bataille de Champagne, au début où il pensait avoir gagné, il annonce en disant ce n'est pas à moi, mais c'est grâce à toi, Seigneur, dans les citations latines. Bon, c'est évident que ça a heurté un peu des personnages comme Poincaré, et puis. Parce qu'à un moment, on a pensé le faire qu'il allait remplacer Joffre, car Joffre était démonétisé. Mais lorsque Poincaré l'a vu là-dedans, Castelnau lui a bien dit que bon, il fallait un roi et tout ça, et que lui, bon, il est évident qu'on peut pas, à mon avis, mener un destin politique en fustigeant le président de la République en lui disant qu'il fait fausse route. Bon. Donc, il avait des qualités. Mais évidemment, par les positions politiques qu'il prenait, confessionnelles, bon, il est évident qu'il ne pouvait pas prendre dans la République de l'époque, on imaginait mal qu'il devienne généralissime.
À propos du
prix. C'est toujours le même problème.
Oh, je ne sais pas.
Non, mais j'ai toujours parlé. On retombe toujours dans les mêmes problèmes.
Oui, de l'époque, qui était le problème de l'époque.
À propos du grignotage du général Joffre, le peintre français Masson a dit un jour on redoutait son appétit.
Oui, bah oui.
Un autre auditeur, Que pense le général des offensives du fameux général Nivelle?
Oh, là, on pourrait le parler longtemps.
Écoutez, Victoria, il nous reste 7 minutes. J'aimerais que Philippe Conrad pose au général la dernière question. Non, Victoria, il nous reste trop peu de temps.
Pour la dernière question, un bilan général sur la Première Guerre mondiale, de cette répression militaire, je crois, près de 9 millions de mobilisés en France. Combien de condamnations à mort qui ont été exécutées pour des actes de rébellion, d'indiscipline ou de mutinerie?
Oui, alors si vous voulez, sur environ, j'en suis à 700 condamnés. Bon, c'est un chiffre plancher, mais je suis pas loin de. Si vous voulez, j'ai tellement fait de, à travers toutes les archives, je pense que à 5% près, je suis arrivé au bout. Donc, la réalité me démentira peut-être, parce qu'il faut être prudent. On est en histoire. En gros, là-dedans, il y en a. J'ai trouvé 43 exécutés pour espionnage aussi. Il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire que. En gros, 6% l'ont été pour... en gros, c'est des civils.
6% des fusillés.
6% des fusillés, ce sont pour espionnage certainement des espions actifs, mais d'autres qui le sont vraiment, parce que j'ai vu certains dossiers où là il y avait des preuves. Et là-dedans, il s'en trouve quand même à l'endroit où on a un fusil avec une main un peu leste, c'est dans l'armée d'Orient. Bon, là, il y a quelques Albanais ou autres qui y sont passés assez vite, ou des Grecs.
Et ils sont comptabilisés dans les 700?
Oui, ils y sont, parce que moi, j'ai vérifié les documents de la justice militaire, ils sont dedans par l'armée d'Orient, entre en compte dans les résultats.
Mais en tant que soldat,
c'était civil, puisque la justice militaire, donc sur le plan espionnage, a toute latitude pour juger. Donc ces gens-là, Matahari, étaient jugés par un tribunal militaire aussi, il faut le voir. Donc là, on a affaire à 43 exécutés aux armées, c'est-à-dire faits sur le lieu, mais pour la plupart, c'étant des civils, ça sont des civils.
Donc il en reste 650.
Voilà, 650. Ensuite, bon, là-dedans, je fais une différence en mettant les crimes de droit commun, bon, parce que j'en ai trouvé une 50.
Quel genre?
Ah bah c'est viol, assassinat, meurtre, bon c'est à mon avis ceux-là ils seraient passés à la guillotine, je veux dire à l'époque de cette époque-là avec les peines de mort, et vu les dossiers que j'ai vus, il y a aucun problème, ça c'est, je vois mal comment ils auraient pu faire commuer cela. Donc voilà. Ensuite si vous voulez, il y a eu refus d'obéissance, j'en ai trouvé une centaine. Des voies de fait envers supérieurs, j'en ai trouvé une 45, après pareil 6%. de outrage envers les supérieurs, 35. Révolte, rébellion, ça a été surtout autour des événements donc de 17, j'en ai trouvé 20. Et le gros paquet, c'est en gros, évidemment, près de 400 abandons de poste en présence de l'ennemi, qui est donc le phénomène. Dit autrement, dans les chiffres, donc, je suis arrivé environ à 588 Français. J'ai trouvé environ 40 ressortissants d'Afrique du Nord, une vingtaine de soldats noirs aussi directement là, mais là aussi il faudrait aller encore, on peut encore un peu creuser, mais je suis pas loin de la réalité.
Mais alors, en rappelant que donc nous sommes dans ce chiffre autour de 500-600, que la guerre, première guerre mondiale pour la France, c'est 900 tués par jour.
Oui, tout à fait, oui.
Pendant toute la durée de la guerre.
Ouais.
Donc ce qui permet de relativiser un petit peu ces chiffres, et puis l'importance légitime qu'on a donnée à cette recherche, cette étude, il fallait absolument la faire, mais vouloir ne voir dans la guerre de 14 que le phénomène des fusillés pour l'exemple, que les mutineries, une vue ainsi par trop partielle, voire partielle, évidemment, c'est tout à fait injuste.
C'est-à-dire, si vous voulez, ces personnages, bon, parce que certains, évidemment, disent qu'il faut réhabiliter tout le monde. Non, on ne peut pas réhabiliter, il y a de tout parmi ces gens-là. Je dirais que si vous voyez une courbe gaussienne, il y a une petite frange, bon, ce que j'appelle les droits communs, les droits communs, pour moi, ils sont exclus du système, c'est 7%, puisqu'effectivement, ce sont des criminels, quoi, des criminels de droits communs. Ensuite, on trouve, si vous voulez, un peu les deux pendants. Bon, il y a, parmi les gens qui ont été condamnés pour abandon de poste, pas tellement en 14-15, mais ensuite, ce sont souvent des récidivistes. Car il faut savoir que parmi ces gens-là, certains se sont vraiment délibérément quittés le front et sont allés travailler clandestinement, parce qu'à partir de 16-17, la population pratiquement les aide. Et donc, ils font du travail au noir, ils n'ont pas de papier. D'autres vivent de rapine.
Ils sont des déserteurs.
Ce sont des déserteurs, des vrais déserteurs, et qui vivent, parce qu'évidemment, ceux qui ne peuvent pas trouver de travail, ils volent, quoi. Donc, il y a aussi le problème des trousseurs de cadavres. Il y a des gens qui, ça a été un phénomène assez important.
Important.
Donc, oui, c'est-à-dire que, je vois des gens qui ont été jugés pour cela, c'est-à-dire que des fois, le soir, les gens partent sur le terrain, et puis les gens sont morts, bon, ils récupèrent.
Affaires. Il y a 10 cas sur la guerre. 10, 15 cas, pas plus. Allez, même 20.
Non, c'est-à-dire que, bon, là aussi, sur les prisonniers allemands, enfin, ce dossier encore est assez à ouvrir. Moi, je trouve que des deux côtés, il s'est passé quand même des drôles de choses, et des gens systématiquement, bon, comme je crois dans tous les combats, bon, les gens disent, bon, ils sont morts, quand même, bon, bref. Mais je veux dire que là-dedans, vous avez donc des déserteurs qui ont été parfois récupérés à Paris une fois, qui sont révadés une deuxième fois, qui ont été récupérés, et qui ont été exécutés plus tard. Bon, là, si vous voulez, ils s'étaient mis en dehors de la loi, je veux dire, on peut. Et ceux-là, donc, sont des gens qui sont partis assez vite. Ensuite, il y a donc dans le lot des gens qui, sous les phénomènes de shell shock, des bombardements et tout, donc il est sûr que là-dedans, vu ce qu'on leur a fait vivre pendant 4 ans, bon, des gens ont lâché. Mais je veux dire, ça, c'était la majorité, donc je dirais le gros de l'armée à ce moment-là, a tenu par patriotisme, par ce qu'ils avaient appris à l'école essentiellement, déterminé, et puis aussi par une vague crainte du gendarme, parce que ça sert aussi, quoi, donc il y avait quand même cette menace. Et j'observe que pendant la guerre, contrairement à ce qu'on a dit, la plupart des pelotons ont fusillé. Il n'y a pas eu des révoltes contre le fait d'exécuter des gens. Bon, on peut en discuter. Bon, on dira c'est le poids de l'armée, mais quand même. Car beaucoup de choses ont été vues. Et pour terminer, je veux dire que, à l'opposé derrière, et c'est ce que disent d'ailleurs certains généraux, ils disent dans la tranchée, c'est pas les officiers qui tiennent, parce que la nuit, il y a un soldat tous les 10 ou 20 mètres. Donc il faut des convaincus. Et moi, je ne l'ai pas cité dans ce livre, mais je le mettrai plus tard, parce que j'ai trouvé de nombreuses lettres de testaments de soldats morts qui avaient écrit à leurs parents au cas où je serais tué, et qui expliquent que là où ils sont là pour le droit, la liberté, la justice. Et donc, je dirais, c'était des convaincus. Donc, imaginez une masse habituelle, des gens qui ont cherché à s'en évader d'une certaine manière délibérée, qui ont voulu quitter le système, qui ont été rattrapés et punis cruellement. Mais sur l'aile droite, je dirais, ou peu importe, de cette masse gaussienne, se trouvent des gens qui sont simples soldats, mais qui, de toute façon, jusqu'à la fin, ils ont fait tous les combats et ont accepté de le faire. Donc, tout ça, on ne peut pas dire réhabilitons tout ce monde-là. Non, disons que là-dedans, il y a des gens qui ont lâché plus ou moins et qui étaient coupables. Certains, je répète, il y a eu des mutilations volontaires qui ont été mal vues, et il y a des bavures de ce côté-là. Donc, même de nos jours, autant aller voir ceux qui y ont été. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être exécuté alors qu'on n'a rien fait directement là. Mais pour le reste, bon, voilà un peu le panorama qui se dégage un peu tout cela.
Oui, mais disons en général qu'il s'agit d'une infime
minorité. Bien sûr.
Sur les 4 millions d'hommes qui sont sous les drapeaux, ça concerne 450 individus sur 50 guerres.
Oui, ceci étant, il faut s'y intéresser, parce que je répète ça, si vous voulez, c'est le point de vue du haut. Ceci étant, par définition, dans nos pays de droit, un déni de droit et puis une erreur judiciaire, il faut l'étudier aussi.
Bon, merci. Donc, voilà. Merci, mon général. Victoria Brühl, de vous poser deux questions, parce qu'il nous reste 4 minutes.
De Gaulle s'est rendu aux Allemands. A-t-il été condamné par contumace?
Non, il s'est rendu aux Allemands. Non, il a été fait prisonnier, il a été blessé. Enfin, il faut pas l'accuser là-dessus. Là, je peux pas répondre parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a eu 500 condamnés par contumace pendant cette guerre-là. Car très tôt aussi, je vais expliquer dans le livre, vu le nombre de capturés, le commandement a décidé de faire des contrôles. Et à la fin de la guerre, la plupart des prisonniers sont repassés devant une commission et certains sont rentrés en prison. Car il y a eu des témoignages comme quoi il s'était rendu volontairement. Donc ce phénomène de se rendre volontairement, mais à mon avis, d'après ce que j'en sais, le capitaine de Gaulle a été blessé. Il a été capturé comme beaucoup d'autres, nous avions 481 000 prisonniers à la fin de la guerre.
Et un autre auditeur nous dit « J'ai enseigné le droit ». Que pensez-vous de cet adage des facultés de droit ? La justice militaire est à la justice ce que l'ulcère est à l'estomac.
Oui, ben là, je suis obligé de dire qu'ils prennent le livre, qu'ils le lisent directement, qu'ils verront combien ceci est complexe.
Encore une question, Victoria. Allez, veuillez aujourd'hui.
Non, je ne sais pas laquelle.
Ah ben écoutez, alors nous
pouvez-vous parler, pouvez-vous nous parler de l'immense tableau peint par un Américain dans la salle des pas perdus de la gare de l'Est et qui représente le départ des troupes ? Il est superbe, le connaissez-vous ?
Réponse non.
Bien.
Voilà.
Mon général, merci.
Quand signerez-vous votre livre ?
Ah bien, là par exemple, je suis très simplement le 29 au Salon des écrivains combattants qui est au Sénat le 29 après-midi, où j'ai une petite place. Il faut savoir que le 5 et le 6 décembre, oui c'est ça, le 5 et 6 décembre, je suis à Roquebrune-Cap-Martin, on m'a demandé d'aller là-bas, où il y a 48 heures si vous voulez de signature non-stop. Bon évidemment, c'est plutôt pour les auditeurs des Alpes-Maritimes, mais bon, voilà dans l'immédiat. Autrement, le 29, j'en ai déjà signé quelques-uns, car effectivement, il se trouve qu'il se vend.
Bien, merci mon général. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Général André Bac, Fusillé pour l'exemple, 1914-1915, chez Talandier. Et le livre est en vente au prix de 27 euros. Nous allons annoncer la prochaine émission. Nous allons nous retrouver pour notre prochaine émission le 17 décembre. Et nous aurons le grand plaisir, avec Dominique Vénère et Philippe Conrad, de recevoir un grand écrivain, qui est notre ami Jean Mabir, que nous recevrons pendant toute la durée de l'émission, et nous ferons l'émission autour de lui sur les divers aspects de la vie et de l'œuvre de Jean Mabir. Donc rendez-vous le 17 décembre avec Jean Mabir. Victoria,
question à Dominique Vénère, est-il possible de se procurer des copies des Dieux du Stade?
Le film ?
Je ne sais pas. Parlez
dans le micro, s'il vous plaît.
Vous en avez messieurs. Peut-être parlé avant,
Non, non, nous n'avons absolument pas parlé de ce sujet-là. Il faudrait poser la question à Philippe Dugue, qui est un grand spécialiste, qui est un historien des cinémas, et qui a écrit l'article sur Leni Riefenstahl dans ce numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire.
Écrivez à la Nouvelle Revue d'Histoire.
Et nous transmettrons.
Voilà. Et un abonné de la Nouvelle Revue d'Histoire vous demande à propos du procès Cadoudal, pourquoi n'y a-t-il pas la suite dans le numéro 9 ?
Parce que nous avons préféré, pour des raisons d'ampleur de dossier, la réserver au numéro suivant.
Très bien.
Et la réponse est parfaite.
Monsieur Lugan, un étudiant très très intéressé par vos cours voudrait savoir si vous les mettez sur Internet ou alors comment les obtenir. C'est un de vos fans.
Non, je ne mets pas mes cours sur Internet, mais mon cours d'histoire de l'Afrique se retrouve en partie dans mon atlas historique de l'Afrique, puisque c'est mon manuel de cours pour mes 3 années de licence.
Après vous avoir entendu, plusieurs auditeurs nous disent que la France aurait grand besoin de beaucoup de Bernard Lugan redresser et redevenir le grand pays dont vous étiez si fiers, mais qui malheureusement aujourd'hui tombe dans une totale déliquescence.
Bon, la flagornerie, non.
Tout de même, mais il y en a, c'est pas la flagornerie, c'est de l'amitié de vos auditeurs. Je téléphone de la Haute-Vienne pour vous dire ma satisfaction à vous entendre, bouchez-vous les oreilles, et pouvez-vous redonner vos coordonnées ? Alors, je les donne. Afrique réelle, boîte postale 6, 0340 à Charroux. Pour l'abonnement, 4 numéros, 68 euros à cette adresse. Et vous pouvez aussi vous demander le recueil des jugements Lugan, envoi sur simple demande.
Toujours en écrivant à l'Afrique réelle, en précisant bien que vous voulez les jugements. J'ai fait imprimer et j'ai édité un petit recueil.
Je vous fais quelques annonces. Alors je rappelle que le docteur Dor et les SOS Tout Petit vous demandent de venir prier pour les petites victimes de l'avortement le jeudi 27 novembre à 18h30 à l'angle de la rue du 4 septembre et de la rue Vivienne, métro Bourse, à proximité du planning familial. Le comptoir de vente de l'école Charles de Foucault à Saint-Maur-les-Fossés, 102 Terre, boulevard Garibaldi, vous invite le samedi 29 novembre de 10h à 18h. Vous pourrez acheter les objets réalisés par les parents d'élèves au profit de l'école. Renseignements 01 42 83 66 69. Un certain nombre d'associations pour la vie vous appellent à un rassemblement près de l'Assemblée nationale, place du président Édouard Herriot, le mercredi 3 décembre à 13h jusqu'à 15h, à la veille du débat en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la bioéthique. L'enfant conçu n'est pas un cobaye, répondez présent en grand nombre. Par ailleurs, non à la Constitution européenne, exigeons un référendum, rendons-nous tous à la manifestation organisée par la coordination souverainiste le samedi 6 décembre, rassemblement à 15h, place Saint-Michel, Paris 6e, renseignement Anne de Vorex, 01 34 75 19 05. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'agenda Venise 2004, soit pour eux-mêmes, soit pour offrir, François de Crécy le dédicacera le samedi 6 décembre à la librairie Âme et Racine, 11 place Saint-Louis à Versailles, de 14h à 18h30. Le vendredi 12 décembre à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, de 17 à 19h. Le samedi 13 décembre à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, de 14h30 à 18h. Le dimanche 14 décembre, à la signature de livres de Renaissance catholique, au Palais des Congrès de Versailles, 10 rue de la Chancellerie à Versailles, de 14h à 18h. Et vous pouvez aussi commander l'agenda Venise à Histoire et Mémoire, 88 avenue des Ternes, Paris 17e, en joignant un chèque de 34€, port compris. Il vous sera expédié par retour du courrier. La bibliothèque Jeanne d'Arc vous rappelle qu'elle prête plus de 3000 ouvrages liés au courant identitaire. C'est ouvert les samedis et lundis, sauf jour férié de 14h à 18h, et l'adresse c'est 17 rue du Méril, Paris 13e. Téléphone 01 47 07 15 66. Enfin, dîner-débat du MNR 16e 17e, le vendredi 5 décembre à 20h, avec Jean-Claude Rollina. Thème, démographie, migration, les nouveaux fardeaux de l'homme blanc. Réservation au 01 47 64 15 23 après 18h.
Bien, Victoria, merci. Mon général, merci. Dominique, merci. Philippe, merci. Nous rappelons que notre prochain rendez-vous sera le 17 décembre avec Jean Mabir. Et pour les auditeurs intéressés, le rendez-vous suivant sera le 4 février et ensuite le 10 mars. Nous n'aurons pas d'émission au mois de janvier. Chers auditeurs, bonsoir et merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Le Bécquet, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 26 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 27, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.